Europe 1. Europe 1.
16h-18h. L'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipée sauvage, deux heures de bonne humeur au triple galop sur l'étalon fougueux du savoir avec Eva Rock en Amazon qui me donne des petits coups de cravache quand je ralentis. Eva, ma complice de... ou des gros, comme vous voulez. Ma complice de toujours, ma Calamity Jane qui chaque jour s'acquitte d'une double mission, nous guider dans la jungle des écrans pour nous dire ce qu'on va regarder ce soir et, très important, mettre notre invité d'honneur à l'aise d'entrée. Il y a une des deux missions qu'elle réussit bien, l'autre un peu moins, comme on a pu le constater encore hier lors des toutes premières secondes de notre émission avec Chaim, la chanteuse devenue actrice pour une série de TF1. Alors que je lui confiais l'avoir trouvée très bonne pour ses débuts devant la caméra, Eva a tenté d'abonder en mon sens, mais comment dire, elle n'a pas trouvé les mots les plus flatteurs. Et ce sont vos grands débuts en tant que comédienne ?
Grand, je sais pas, vous me direz, mais en tout cas ce sont les débuts.
Et on peut vous dire que c'est très réussi,
c'est pas vrai. Ah bah c'est même étonnant.
Aujourd'hui, vous savez quoi, Emma ?
Vous n'ayez pas
laissez-moi, laissez-moi présenter l'invité tout seul, hein, comme ça on ne perd pas d'entrée. Vous connaissez Brut, mais connaissez-vous Brut ? Eh bien, Brut est à Brut ce que le Gorafi est au Figaro, une parodie savoureuse, et Bertrand Huskla, notre invité, est à Xavier Bertrand, ce que Bertrand Cantat... Non, là je m'en mets les pinceaux, je ne trouve pas d'issue à cette phrase. Bref, bonjour Bertrand Huskla.
Bonjour, bah merci. On a failli aller au crash.
On a d'entrée de jeu, cette fois par ma faute. Comédien, auteur, vous êtes à l'origine de Brut et on vous retrouve dans la saison 2 de l'excellente web-série d'Arte. Il revient quand Bertrand. Comment vous présenteriez votre univers à quelqu'un qui ne vous connaît pas ? Ce qui était mon cas, honte à moi, hier.
Waouh, quelle honte. Mais maintenant je suis là, on peut réparer les trucs.
Ouais.
Alors comment je me présenterais comme un comédien qui vire vers l'humoriste cynique ? Et comme dirait Bernanos, le cynisme c'est de l'espoir froid. Bam.
Bien,
c'est mon entrée.
Oh là là, le niveau culturel de l'émission a fait un bond prodigieux.
C'est le seul truc que je connais de Bernanos.
Ça sera la seule citation de Bernanos de l'émission.
Bien entendu.
On va parler de vous, on va parler de Il revient quand Bertrand. Mais d'abord, je vous présente nos deux premiers journalistes en compétition aujourd'hui. Puisque vous le savez peut-être, chaque après-midi, les meilleurs journalistes de la station s'étripent au service de votre culture G. Un seul héritera de cette précieuse couronne en carton de chroniqueur du jour. Signe qu'on a encore moins de budget que sur Arte, ce qui n'est pas peu dire. Face à vous Bertrand, un garçon qui est pour moi plus qu'un collègue, un ami. Je me souviens encore de ses derniers mots samedi après une formidable soirée team building.
On est bien là tous ensemble sous la douche.
Non, ces derniers mots, habillés. Bonjour Jean-Philippe Ballas.
Bonjour Mathieu, salut à tous.
Sous la douche, vous êtes un homme pragmatique, mais dans la vie, vous êtes un philosophe. Et aujourd'hui, vous posez une question vertigineuse. Comment photographier le temps qui passe ?
Oui, à se demander d'ailleurs si les réseaux sociaux sont pas en train de se transformer en gigantesque album de famille. Je vous parlerai d'une série de photos géniales qui est sortie dans le New Yorker. Ce sont des parents qui disent au revoir à leur fille devant la maison. Ça a l'air tout bête, mais c'est hyper émouvant.
Et c'est un sujet radiophonique par excellence.
Oui. Mais oui, le talent.
À ses côtés, Bertrand Huskla, dans une de vos vidéos, vous avez ce résumé cinglant.
Avant, j'étais un connard en voiture. Et ben maintenant, je suis un connard à vélo.
Je vous présente Anne Le Gall.
Ah, c'est
pas ça. Oui, Anne Le Gall, notre collègue écolo, végano, paléo, décroissante, tout ça, spécialiste environnement d'Europe 1, bonjour.
Bonjour à tous.
Avec quel sujet allez-vous tenter de remporter les 3 points aujourd'hui, Anne ?
Je vais faire de l'espoir chaud, vous aimez l'espoir froid, moi je fournis l'espoir chaud. De l'optimisme. Je vous vante souvent les vertus des forêts pour lutter contre le réchauffement climatique, contre la pollution. Là, je vais vous vanter les vertus des arbres pour réussir ces examens. Il y a une étude américaine qui vient de prouver que ça améliore les capacités du cerveau de fréquenter des arbres. D'où la présence de ce yucca en studio, ça nous fait du bien à tous nos cerveaux, d'avoir
je
ce yucca aujourd'hui.
Je me sens déjà plus intelligent. Jean-Philippe Ballas, déjà une première remarque.
On a le droit aux accessoires pour la chronique.
Oh, oui.
Parce que là, le yucca, je ne sais pas s'il est réglementaire.
C'est un premier
il
point.
Il me gratte un peu.
C'est un point de règlement que nous éclaircirons. Voilà pour le programme, l'équipe est sauvage peut démarrer.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
C'est donc Bertrand Huskla qui nous accompagne cet après-midi. Pour vous présenter ce garçon plein d'avenir, son univers, son travail, satire habile de notre société, j'aurais pu sélectionner une des centaines de ses pastilles pour Brut ou un extrait brillant de Il revient quand Bertrand qui aurait mis en avant la justesse de son jeu d'acteur ou la finesse de son écriture. Mais à la place, j'ai choisi...
Elle ! C'est ma bite !
C'est pas possible.
Je la porte comme un étendard quand je fais les courses chez Casto. Je l'aime !
Je suis taquin, enfin plus de 2 millions de vues, hein, 2 millions 200 000 vues.
C'est vous qui chantez la France, là,
ouais, c'était
hein.
Les débuts, hein. C'était pré-MeToo, il y a un contexte.
C'était pré-MeToo, mais en plus là je suis taquin parce que c'est une chanson qui dénonce en fait évidemment le machisme, la phallocratie dans laquelle nous vivons encore à bien des égards, puisque soudain, et c'est tout le génie de cette chanson, à un moment surgit une fille qui dit
« Elle,
c'est Macha. Oh,
qu'est-ce que tu fais là?
Je fais une chanson sur Macha.
Ça va pas, non?
Malade.
Bah vous faites bien toujours sur votre bite, tu vois pas pourquoi moi je pourrais pas.
Bah parce que t'es...
C'est vulgaire.
C'est vulgaire.
Oui, c'est vulgaire. Bertrand Isla, je crois que c'était vos débuts, mais ça résume un peu votre esprit quand même.
C'est un petit peu ça, ouais, c'était un truc assez premier degré. En fait, ce qui fait beaucoup rire avec cette vidéo, c'est qu'il y avait des gens à l'époque qui l'avaient partagé et qui n'avaient pas forcément compris le message. Donc on avait des espèces de photos d'équipes de rugby, des vidéos qui chantaient c'est ma bite et tout. Les gars, vous êtes à côté. Mais quand il y a le double discours, en fait, c'est assez drôle. En fait, quand les gens qui comprennent pas partagent le message, il y a une espèce de troll qui marche bien, donc c'était assez drôle.
Donc vous pouvez découvrir ça, mais aussi donc Brut et également sur arte.tv. Il revient quand Bertrand saison 2. Il faut pitcher un petit peu. Eva, vous êtes forte pour pitcher.
C'est compliqué. Oui, alors je vais essayer, mais
c'est pour ça que je vous refile la patate chaude.
Sur la première saison, vous êtes un trentenaire, vous faites larguer par votre copine Magali, que vous appelez Magalou. Et puis vous allez décider avec l'aide de votre voisin de l'espionner via nos réseaux sociaux et via toutes les petites caméras qu'on peut avoir sur les smartphones, sur nos télé connectées, etc. Et sur la deuxième saison, eh bien, vous avez un peu grandi, un peu vieilli, mais l'espionnage est toujours de mise.
Exactement, le personnage a vieilli, pas moi. Moi, je suis resté le même. on a sur cette première saison un personnage que j'aime bien, en fait, qui est un personnage totalement immoral. C'est qu'en fait, par un concours de circonstances un peu débile, il est passé barrette, sa copine, il est en break. Il y a ce truc un peu du break.
Nuance
de truc, genre, en fait, on est ensemble, mais plus ensemble, on se prend un petit temps pour. Ouais, ok. Et en fait, en débarrassant ses affaires, il se pète la jambe, et en fait, il est sauvé par le voisin du dessus qui l'accueille, qui lui met de la glace. Et en fait, en bougeant un joystick chez ce voisin, Gus, ce personnage un petit peu étrange, il se rend compte que ce mec, qui est un ancien militaire, a mis tout l'immeuble sous vidéosurveillance, comme passion un peu d'observer un peu les gens. Donc du coup, le mec, là, Bertrand, se retrouve avec une arme nucléaire. Il va faire croire à sa copine qu'il fait un tour du monde.
Et
en fait, il est juste au-dessus.
Il est juste au-dessus. Ce qui fait que quand il appelle son ex, il voit quand elle répond pas. Quand elle a un rencard avec un mec, il le voit. Donc en fait, c'est tout ce qu'on veut pas voir quand on est en période de séparation, et lui, il y assiste. Donc c'est vraiment, c'est assez terrible pour lui.
Chers auditeurs, vous connaissez mon honnêteté, vous savez que quand je vous dis que j'aime quelque chose, c'est que c'est vrai. Foncez voir la saison 2 de Il revient quand Bertrand. Bertrand Isla est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
Et si pour vous ressourcer, vous preniez un shot de forêt? Rien que pour avoir une idée pareille, Anne Le Gall, notre expert environnement, a dû prendre un shot d'autre chose, si vous voyez ce que je veux dire, Bertrand.
La toute première cocaïne bio.
Oui, voilà, je vois que vous la connaissez, voire même que vous la fournissez.
Normalement, la cocaïne, c'est coupé avec des pneus ou du plastique. Nous, on préfère l'aloe vera, ou alors coupé en France avec des légumes anciens ou le cavor, bio, bien sûr, pour que chaque trace rappelle la cuisine de grand-mère.
Bertrand Isla, Anne Le Gall, la rencontre de deux amoureux du bio, ce sera juste après.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Quand le journalisme le plus rigoureux rencontre l'esprit festif d'une bande d'amis, c'est le cocktail détonnant que vous propose chaque après-midi l'équipe est sauvage, des journalistes sérieux dans une émission de divertissement. C'est un peu comme si Patrick Cohen lançait une chenille dans les années bonheur en s'exclamant
« De toute façon, quand on a 4 grammes, on a 4 grammes !»
L'image est parlante, mais elle néglige une autre dimension de notre émission, son aspect compétitif. Chaque après-midi, vous votez pour votre journaliste préféré, sachant que la voix de notre invité d'honneur compte à triple. Aujourd'hui, Bertrand Isla, génial créateur de Brut, la parodie du site d'information Brut, génial et modeste, en tout cas en 2019, une année s'est écoulée depuis, je ne sais pas si vous êtes toujours aussi modeste, vous déclariez en 2019, la parodie que je fais n'a rien de génial en soi, c'est ce qu'on fait beaucoup de parodies de journaux télé auparavant, sauf que les journaux télé d'aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Vous êtes les inconnus 2.0 en somme.
Alors j'adorerais vraiment, mais je ne sais pas si je peux me réclamer des inconnus, mais enfin, en tout cas, moi, il y a une vraie
filiation. C'est
votre culture, en tout cas. Moi, c'est ce que je regardais énormément, et même par la formation de Didier Bourdon, on a fait la même école, donc ce même... se mettre le jeu au service d'une extrême stupidité, ça c'est un truc moi qui me touche vraiment. Et ouais, après en termes d'inventer quelque chose, non, j'ai rien inventé, j'ai juste fait ça en format carré, en fait. Brut, c'est en format carré pour être sur le téléphone, mais sinon ouais,
vous êtes trop modeste.
Voilà, c'est la nouvelle télé en fait. Donc c'est, il y a un vrai questionnement sur, en fait, en termes d'art, comment est-ce qu'on trouve un bon format, comment, et ça j'ai vraiment beaucoup réfléchi à force de consommer les réseaux sociaux. Finalement, j'ai un peu l'impression d'être un artiste qui a fait une école de commerce dans le résultat des
et
trucs,
qui a benchmarké et tout, pour trouver le bon truc
et tout. Alors pas forcément consciemment, mais quand je me retourne, je me dis ouais, c'est malin.
Cette stratégie. La vie, vous en avez conscience, mon cher Bertrand Isla, est une compétition. Même Anne Le Gall, notre icône verte qui déteste le concept même de compétition, a fini par s'y plier. Occupant les avant-postes du championnat d'Europe 1 des meilleurs journalistes, elle tente de s'y maintenir à grand renfort de happening destiné à donner du relief à sa chronique. J'ai lu, Bertrand, qu'à une époque, vous vous plaignez de ne pas avoir de gros moyens pour réaliser vos vidéos. Je vous pose la question, savez-vous vraiment ce que signifie ne pas avoir de gros moyens? Écoutez ça et répondez-moi après.
Un maire, s'il le veut, peut-être un géant vert.
Géant vert.
Voilà, géant vert. En fait, on n'a pas les droits pour la publicité, donc...
Voilà, Bertrand Hustla, ce que c'est que de ne pas avoir de moyens. Bienvenue sur Europe 1.
Le plus pathétique, c'est ouais, pas toi qu'on n'ait pas des moyens, c'est qu'en plus elle me dit chante J'ai envers et moi je le fais, quoi.
Mais oui, c'est vrai, vous réagissez, vous êtes une bonne camarade, ouais, effectivement. Ouais. Voici donc Anne Le Gall qui cherche aujourd'hui à nous entraîner dans les bois, une Émile Louis, comme on dit dans le petit milieu de la Valère. Allez-y Anne, je vous laisse là-dessus.
Alors ça se passe aux États-Unis. On est un petit peu loin d'Émile Louis. On vante souvent l'excellence du système universitaire américain, les campus prestigieux. Mais là-bas, les étudiants... Exactement. En raison de la pression financière, les étudiants connaissent un niveau de stress assez hallucinant. Les deux tiers se disent avoir vivre une anxiété écrasante. 13% des étudiants américains sont diagnostiqués dépressifs. C'est pour ça que des chercheurs de l'université de Cornell dans l'État de New York se sont intéressés à une méthode naturelle pour aider ces étudiants. C'est la balade en forêt ou la balade dans le parc.
Là, Bertrand, il dit je suis pas venu pour rien. Il y a une idée de sketch qui vient.
Non mais c'est très sérieux. C'est très sérieux. Ces chercheurs ont comparé les résultats de 14 études portant sur 700 étudiants âgés de 15 à 30 ans à travers le monde. À chaque fois, il a été demandé à ces étudiants d'aller se promener 10 minutes par jour dans une forêt ou dans un parc, et les chercheurs ont ensuite mesuré leur pression artérielle, leur rythme cardiaque, leur taux de cortisol. Vous savez, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Ils ont aussi fait passer des tests pour mesurer la mémoire, la concentration, la créativité. Les résultats ont été publiés dans la revue Frontiers in Psychology, et il apparaît clairement qu'un petit, comme ça, un shot de nature de 10 minutes a permis à ces étudiants de donc réduire leur stress de façon considérable et améliorer les performances de leur cerveau par rapport à des étudiants qui n'auraient pas fait de pause dehors ou alors qui seraient allés se balader en ville.
Mais ça marche dans tous les parcs, si vous allez au Bois de Boulogne par exemple. Est-ce que les forêts ont toutes le même apport?
Ça marche aussi dans les parcs urbains. Il faut avoir des plantes, du verre, et ça marche surtout au bout de 10 minutes. C'est ça qui est étonnant. Les effets démarrent à partir de 10 minutes et jusqu'à 50 minutes. Donc au-delà de 50,
ça ne sert plus à rien. Il ne faut pas exagérer non plus. Et on arrête son 4x4, on garde le X5 devant, on va faire 10 minutes, et ensuite on écoute Docteur Dehors, on rentre.
Voilà. Et la posologie optimale, c'est 3 fois 20 minutes par semaine. Et là, on a un cerveau au top. Tout ça donc figure dans la très sérieuse étude de l'université de Cornell. Alors, comment des shots d'arbres, des balades en forêt peuvent-ils avoir un effet vraiment chimique, physiologique sur l'organisme? Eh bien, écoutez cette explication de Pascale Derme. Elle est la réalisatrice du documentaire Natura, qui est une grande enquête scientifique sur les effets de la nature sur la santé.
Les arbres émettent des phytoncides qui sont des hormones de protection contre les insectes et les bactéries. Et ces phytoncides que l'on peut sentir, qui ont des arômes de citron, de pin, qui sont émises beaucoup par les résineux, mais aussi par les chênes et les hêtres, protègent les arbres contre ces insectes, mais nous protègent aussi, et plus précisément, renforcent notre immunité naturelle.
C'est merveilleux, quand les arbres se protègent des insectes,
Donc si je fais 10 minutes de marche autour du yucca de notre plante commune de l'open space, ça va me faire du bien.
Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'il y a la balade, le contact avec la nature, et il y a aussi la vue. Rien que la vue du verre, ça a déjà un petit effet sur le cerveau. Voilà, donc je pense que depuis quelques minutes, donc les effets démarrent au bout de 10 minutes. Donc je pense que vous vous sentez mieux déjà un petit peu.
Ah oui, vous nous entraînez en forêt là.
Oui, j'essaie de vous mettre dans l'ambiance.
Elle racole à mort pour avoir les points. C'est
ça
pas gagné. Merci Anne Le Gall. Votre chronique mérite-t-elle les 3 points de la victoire? Notre invité a jusqu'à 18h pour se tâter.
Europe 1.
À suivre, fera-t-il mieux qu'Anne Le Gall? Jean-Philippe Ballas sera notre deuxième concurrent du jour. Un journaliste pour lequel Anne a beaucoup de respect, sachant qu'il est entré à Europe 1 10 ans avant elle. Elle le voit un peu comme...
Un vieux pommier sauvage qu'on aimerait préserver.
J'aurais plutôt dit un mentor, moi j'espère qu'il le prendra pas mal.
Petit con.
Jean-Philippe qui pose aujourd'hui une question aussi métaphysique que saugrenue, que je qualifierais donc de métaphysico-grenue. Comment photographier le temps qui passe? A tout de suite.
Europe 1, l'équipée sauvage. 16h, 18h. Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Certaines associations laissent en bouche un goût amer, la brandade de morue à la cannelle par exemple. Mais il faut toujours chercher de nouvelles recettes, c'est pourquoi j'ai créé l'équipée sauvage. 400 grammes de journalisme, une cuillère à soupe de conneries, une pincée de trash pour faire le buzz.
C'est ma bite.
Et surtout, un invité formidable. Aujourd'hui, le comédien et auteur Bertrand Hustla, créateur de Brut, version parodique de Brut, et que vous retrouvez dans la saison 2 de Il revient quand Bertrand, dispose sur le site d'Arte. Alors, dès le début de cette saison, vous parlez de ghosting. C'est le moment de faire un point parce que ma grand-mère qui nous écoute ne sait pas ce que c'est que le ghosting et peut-être d'autres de nos auditeurs aussi.
Bah, le ghosting, c'est très simple, c'est que alors moi j'ai souvent vécu d'un seul côté.
Le ghosting unilatéral.
C'est ça, j'ai été ghosté, j'ai rarement été le ghost. C'est quand on envoie un message à quelqu'un et qu'il juste il ne répond plus, il fait le mort, on fait le fantôme quoi. En fait, on disparaît complètement. Je n'ai jamais fait ça.
Je réalise que je ghost tous les jours Eva quand vous m'envoyez des petits messages, vous me posez des questions.
Je suis très heureuse de vous entendre dire vous tout seul comme un grand. J'ai même pas eu besoin d'y aller quoi.
On vous a surnommé Casper à la radio maintenant.
Oh, mais c'est pas très gentil ça. Est-ce que ça vous fait peur ou est-ce que vous maîtrisez tellement les outils, les nouvelles technologies, tout ça que finalement
je me sens clairement sur un fil en fait. Et de plus en plus, au fur et à mesure que ça avance, moi je commence à avoir une communauté qui me suit et une blague qui part mal, un truc. Ouais.
Vous vous auto-censurez du coup ? Vous vous dites, est-ce que tout le monde va bien comprendre le deuxième degré sur ça ?
J'essaye à chaque fois de bien valider mes blagues et qu'elles soient bien carrées.
Ça, c'est votre côté école de commerce encore. Il
faut que je sois inattaquable.
Chaque blague est validée par mon avocat.
Le client, qu'est-ce qu'il veut ? Voilà, il y a une histoire, merde. Et donc, il y a un peu ça. Donc, j'essaie. Et en même temps, à l'inverse, tous les sujets dont il faut pas parler, j'essaie quand même d'en parler. Parce que j'ai l'impression qu'à terme, c'est un truc qui va me servir si je peux construire, allez, entre guillemets, ça se voit pas à la radio, mais j'en fais, une espèce de carrière où si un jour je dis un truc de côté, je pourrais toujours me défendre en disant non, mais regardez ce que j'ai fait quand même avant. Il y avait cette affaire, je crois que c'était Guy Bedos qui avait traité Nadine Morano de. Je ne suis pas Guy Bedos, donc je ne vais pas m'y risquer. Mais il me semble qu'il avait été relaxé, qu'on avait dit que ça restait dans le cadre de son activité. Et je me suis dit, putain, mais ça, c'est quand même génial. Quoi. Le mec, il dit, non, mais lui, il a le droit, mais pas vous. Et je me suis dit, je veux ça, je veux être Guy Bedos sur ce point. C'est quand même...
Maintenant, vous pouvez tout dire.
Voilà,
dans le cadre de votre activité.
On verra. Parce que Guy Bedos n'avait pas Twitter. Enfin, c'est très, très compliqué. Il y a des moments où je sors un truc et même les gens que je veux défendre m'attaquent parce que je ne l'ai pas dit comme il fallait. Et ça, c'est.
Ça devient très compliqué.
Mais pour l'instant, c'est encore marrant, ça va. J'ai pas encore eu de vrais trucs.
Mais avec un problème notamment sur Brut, j'y pense souvent, c'est qu'il y a des gens qui vous découvrent, qui voient pas très bien le mot Brut en fait en haut de la vidéo à droite et qui pensent que c'est Brut.
Ouais.
Et donc qui vous répondent mais vraiment au premier degré sur vos vidéos.
Ça c'était en réalité ça arrivait beaucoup sur les premiers.
Oui.
Maintenant le programme commence à être installé et j'ai toujours essayé d'en jouer sans qu'on m'attaque, qu'on me dise un peu de faire de la fake news parce qu'il y a pas mal de sites qui font un peu ça, je vais pas les citer mais des sites où vraiment quand les gens se limitent beaucoup au titre quand et on partage les trucs. En fait, ils voient le titre, ils disent "Ah, j'ai compris." Et tout. Et alors, il y a des moments où les titres sont quasiment mensongers sur des vrais médias, et parfois ce sont des parodies, mais on le voit pas. Il y a des gens qui changent une lettre comme exactement ce que je fais, mais il y a des moments où la parodie est tellement fine. Au moins, le Gorafi, il y a un truc qui est assez clair, je trouve, dans le truc. Et là, eux, je trouve qu'ils sont plutôt du bon côté. Mais il y en a d'autres. Là, il y a un truc qui est sur l'histoire que la fellation transmettrait moins le coronavirus que la bise. Et ce truc est parti répandu, ce qui était une fake news.
Ah ouais, moi, j'ai cru, moi.
Mais tout le monde, mais le site était complètement bidon, et en fait, comme tout le monde, on a juste regardé le titre. Et voilà, donc j'essaye un peu de faire attention, mais c'est vrai qu'au début on m'attaquait un peu, enfin on m'attaquait non, vous m'attaquez en fait.
Ah non, c'est pas mais non, je trouve que c'est aberrant que les gens ne voient pas le côté parodique.
Et voilà, et il y a des moments où il y a des gens, je peux rien faire pour eux, c'était de se renvoler d'elle-même. Mais
parfois à la télé sur des sketchs, on avait le petit signe, ceci est une parodie.
Oui,
c'est vrai.
Ça vous a demandé de le faire, vous, parfois
Non, on m'a pas demandé de le faire, et c'est pour ça qu'en fait, le programme a une première vie sur le digital, ce qui je pense était vraiment salutaire parce que ça m'a permis vraiment d'acter. La télé a très très peur en ce moment et l'espace de liberté, on le trouve un peu sur Internet. Ça réduit de plus en plus, mais encore à l'époque, quand j'ai lancé Brut, il y a un an et demi, on peut vraiment tester les choses. Maintenant que ça s'institutionnalise beaucoup Internet, c'est un peu plus compliqué. Mais moi, tant que je peux éviter le ceci est une parodie, moi, à chaque fois, pour moi, ça tue le programme quand on précise en gros qu'il y a une blague.
Il reste libre grâce à une équipe de 12 avocats. Bertrand Estla est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
C'est une légende d'Europe 1 qui s'apprête à entrer en piste. Un journaliste dont la réputation dépasse allègrement les frontières de notre rédaction, puisqu'au Bhoutan, à la simple évocation du nom Ballas...
Beaucoup pensent à l'échangisme, au bondage...
Oui, Jean-Philippe Ballas arrive avec aujourd'hui une grande et vertigineuse question. Comment photographier le temps qui passe? C'est juste après Vianney. N'attendons pas sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1.
L'équipe est sauvage.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire, vous écoutez l'équipe est sauvage. Deux heures d'une folle compétition opposant les meilleurs journalistes d'Europe 1 au service de votre savoir et sous l'œil vigilant de notre invité coup de cœur du jour, Bertrand Hucelat, créateur de Brut et actuellement dans l'hilarante série d'Arte. Il revient quand, Bertrand? Bertrand Hucelat, comment vous résumez en trois mots?
Je peux vous dire que je suis un sacré que tartenterie.
Merci de cette concision qui me permet d'enchaîner rapidement sur la compétition, puisque voici venir notre deuxième concurrent du jour, le redouté Jean-Philippe Ballas, qui va tenter à présent une chronique émotion. Je vous souhaite bonne chance. Seul conseil que je peux vous donner suite aux déboires buccaux de ces derniers jours, pour éviter les lapsus malheureux, articulez.
Mais il n'y a pas que le CO2, il y a tous les polluants qui sont en nette baisse.
Écoutez, je ne force rien du tout. Jean-Philippe Ballas, c'est à vous, je ne dis plus rien du tout. Je ne dis plus rien, c'est fini.
Que dire après ça? Allez, j'ai des effets spéciaux, vous entendez?
On est vous aussi, vous nous entraînez en forêt?
On est plus précisément dans l'Iowa, on est devant un petit pavillon de briques rouges avec un toit blanc, on est à Sioux City, et c'est la maison des parents de Dina Dickman. Dina Dickman, c'est une jeune photographe qui ne rate jamais une occasion d'imprimer la pellicule, et ce qu'elle aime surtout, c'est prendre sa famille sur le vif, dans des gestes quotidien, anodin, dans la cuisine, dans le salon. Et puis tenez, par exemple, ce petit moment particulier qu'on a tous vécu. Vous savez, quand il vous faut reprendre la route le soir, que vous repartez en voiture, ce moment où la famille, les amis sortent devant la maison, la porte du garage, et qui vous font un petit signe de la main. Et bien c'est ainsi qu'en 1991, alors qu'elle est déjà au volant, Dina Dickman a l'idée d'immortaliser cet instant. Elle photographie ses parents qui se penchent vers la portière de la voiture pour lui dire au revoir, il fait beau, sa mère, on voit, elle a un petit bermuda, son père est en chemisette, et c'est ainsi que, pendant plus de 30 ans, à chaque fois qu'elle va repartir de ses parents, Dina Dickman va les photographier. Alors parfois on voit un bout de tableau de bord, on voit le rétroviseur, mais les parents ils sont toujours là. Alors parfois c'est l'hiver, on voit qu'ils portent un bonnet, parfois c'est la nuit, parfois la porte du garage familial est ouverte et là on voit la vieille Buick bleue du père de Dina Dickman. Et puis on voit le temps qui passe surtout, parce qu'il y a un siège bébé au fil des années qui apparaît à l'arrière de la voiture. Et puis on voit les parents de Dina qui vieillissent forcément. Tenez, je vous ai apporté des photos, hein. On va les montrer sur europe1.fr, vous pouvez les échanger. Et on voit que la maman de Dina, elle commence à se courber légèrement. On voit que le papa, il a besoin d'une canne désormais, mais il sourit toujours avec sa casquette de baseball.
Ah, j'ai pris à l'envers, moi, parce que si elle devient plus vieille que ça, c'est pas possible. Attendez, je reprends dans l'ordre.
Oh, Mathieu.
Vous êtes méchant, parce qu'un jour, en 2010, il n'y a plus que la mère de Dina sur la photo. Là, on comprend que monsieur est parti. Alors, il est parti paisiblement dans son sommeil. La maman de Dina, elle continue à poser. Alors, elle sourit quand même un peu moins. Elle le rejoindra quelques années plus tard. La dernière photo de cette série, c'est le pavillon de briques rouges avec la porte blanche du garage définitivement fermée.
Vous êtes trop triste.
Il n'y a plus personne pour agiter la main et dire au revoir.
Alors, mais Jean-Philippe, on a envie de pleurer.
Mais vous allez voir ce qui est intéressant, c'est que cette photo, elle a été publiée par le New Yorker, elle est mise en ligne, elle est ultra partagée sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'elle parle à tout le monde. Et je me suis aperçu que finalement, eh ben, on n'a plus d'album de famille chez nous. On n'a plus rien. On a uniquement, moi, j'ai ma plus jeune fille, elle a découvert pour la première fois de sa vie un album de famille en vrai, chez ses grands-parents, il y a quelques jours. Et finalement, c'est un peu les réseaux sociaux qui sont devenus ce grand album. Alors, on pourrait se dire que mettre des photos de ses parents comme ça sur les réseaux sociaux, il y a un côté un peu impudique. Et ben finalement, on n'est pas du tout gêné. Il y a un côté miroir, on s'identifie complètement à ça. Et c'est vrai que, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a quatre sœurs comme ça qui ont passé des années à se photographier chaque année à chaque fois qu'elles se retrouvaient. On les a vues grandir. Et c'est des séries qui nous touchent forcément. C'est aussi grâce à Internet aujourd'hui.
Bertrand Hucelat, vous avez quel âge?
Moi, j'ai 33 ans.
Vous avez des albums photos à la maison encore? Vous faites partie de la dernière génération des albums photos?
J'en ai encore des petits, moi, que je retrouve de temps en temps à chaque fois que je dois déménager ou nettoyer chez moi, ce qui arrive en même temps, en général.
Une fois tous les 5 ans.
Voilà, quand je les retrouve, je me renvoie un peu, je me renvoie avec ma guitare, tous ces vieux trucs et tout. Et c'est, voilà, donc j'ai plus de photos que je tire, mais effectivement, moi, c'est Instagram qui est devenu mon.
Mais voilà.
Et même, oui. Je mets rien sur Instagram. Non, je prends pas de photos. Enfin, c'est sur mon cloud maintenant. Oui. C'est à mon insu.
Mais si jamais un jour ça plante ce truc-là.
Exactement.
On n'a plus rien.
J'aurais plus rien. Mais c'est comme un incendie en fait. Seulement, il y a plus de chances que ma maison brûle que Google brûle, je crois.
Ça, c'est pas faux.
Il n'y a rien sur votre Instagram. Il n'y a que des trucs de promo.
Ouais, il n'y a que
des trucs.
Parce
que je vous ai scrollé, comme on dit. C'est-à-dire qu'on cherche. Scroller, ça veut dire on cherche toutes les infos possibles sur l'invité ou sur la personne que vous invitez un soir au resto. Vous voyez, vous renseignez avant.
Le fameux stalk.
Le stalk, oui, c'est ça. Vous l'avez stalké, c'est ça que vous voulez dire.
Bien scroller aussi.
Ah bon?
Mais bien sûr.
Les deux fonctionnent.
Les deux fonctionnent, merci. Expert numérique d'Europe.
Voilà. Et je n'ai rien trouvé sur
Parce qu'en fait, j'ai très très peur, moi, de mettre des trucs perso. Alors pour deux raisons, parce que déjà je suis pudique et aussi non mais à ce côté j'ai l'impression qu'en tant qu'acteur, quand on met trop de trucs de sa vie de soi, on casse un peu le pouvoir de projection que peuvent avoir les gens. Genre, je veux rester une page blanche en fait. J'ai pas de tatouage par exemple, aussi parce que j'ai peur des aiguilles, mais j'ai envie de garder une force comme ça de projection quoi.
On remercie en tout cas Jean-Philippe Ballas. Bertrand, un mot à Jean-Philippe à l'issue de sa prestation.
Toujours se poser la question pourquoi. Pourquoi je suis chiant? Pourquoi j'ennuie les gens?
Oui, alors, Bertrand, réservez-vous pour le vote final tout à l'heure. En attendant, on continue de parler de l'univers de Bertrand Huskla, notre invité, jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, un des moments les plus intenses de notre émission, le quiz qui opposait le rock à l'invité. Hier, Eva s'est inclinée pour la 123e fois en 131 confrontations. À chaque fois, elle a une excuse. Lundi, elle avait bu. Hier...
Le problème, c'est que j'avais pas bu. Peut-être que j'aurais dû boire. Ouais.
Elle ne sait plus comment rompre le cercle vicieux de la loose. Mais qui sait, sur un malentendu, comme disait Federico Garcia Lorca, qui vive la vera.
16h, 18h, l'équipé sauvage. Europe 1, Laurent Mariotte.
Les restaurants sont toujours fermés, mais nous pouvons recevoir à la maison moins de 10 personnes. Nous avons des menus grande tablée pour vous. Le chef Guy Martin cuisine pour tous sur les réseaux sociaux. Il nous donnera sa recette du cake des copains. Et la bonne vivante Marianne Chazelle se mettra à table avec nous.
La table des bons vivants.
À demain, 11h sur Europe 1.
La vie est un roman. Le nouveau roman de Guillaume Musso, mardi prochain chez votre libraire.
Leclerc.
Leclerc a toujours répondu présent pour défendre le budget des Français. Aujourd'hui, Leclerc renforce votre budget avec des offres aussi pour les plus jeunes.
Comme le lot de 3 paquets d'Ourson Lulu de 150 grammes chacun avec 30% de réduction immédiate qui est à 2,20€, soit 4,89€ le kilo du 19 au 30 mai chez Leclerc. Ça, c'est du budget renforcé. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Voir modalités, magasins et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter.
L'équipé sauvage revient dans une minute avec le quiz Eva Rock contre notre invité Bertrand Huskla. Et vu comment ces deux-là se regardent, je vous avoue que je commence à me poser des questions. C'est quand même Eva qui m'a proposé qu'on reçoive de Bertrand. Et si les deux se connaissaient d'avant l'émission?
La fête de la musique.
Oui.
Je t'ai passé la prendre dans le Ford Transit de mon cousin.
La vache.
C'est là qu'on l'a fait ensemble. Tous les deux pour la première fois.
Je le sais, je le sens.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez toujours l'équipe est sauvage, 2 heures d'infos, de rires, mais aussi parfois de révélations. Notre invité Bertrand Huskla est le héros d'une série présentée comme une fiction intitulée « Il revient quand Bertrand ?». Je dis « présentée comme une fiction » car les premières minutes de l'épisode 1 de la saison 2 ne laissent aucun doute. Il s'agit du premier biopic sur Eva Rock, ma précieuse complice qui entame sa 8e année de célibat et qui passe sa vie cloîtrée chez elle à mater des séries sous un plaid Maison du Monde en gobant des apéritifs frais.
Je comprends pas pourquoi la moitié de l'humanité perd son temps à courir après l'autre. Ça se fait qu'il y a des séries télé, les gens, ou quoi? Franchement, c'est ça le bonheur.
Bon, ça c'est de la dépression. Tu n'as pas de petit copain?
Si je veux, j'ai pas envie, c'est tout.
Faut me rappeler quelqu'un.
Et alors, je peux dire un truc?
Oui, dites-le.
Ah, j'ai pensé à moi en voyant la série.
Comme quoi, j'ai pensé à vous, comme quoi les grands esprits se rencontrent. Alors, Bertrand Huskla, depuis plusieurs mois, vous avez été un adepte d'un art martial non violent, un étudiant fauché, un hypochondriaque, un créateur de jeux de société MeToo, un flic condamné pour la 6e fois par un tribunal, ou encore un député En Marche, que vous incarnez d'ailleurs admirablement. Tout ça pour des vidéos brutes, parodies de brutes, on le rappelle. Comment vous faites pour créer tous ces personnages? Vous consommez beaucoup l'actu, vous lisez les journaux chaque matin, comment ça se passe? Où vous trouvez votre inspiration?
Déjà là en ce moment je suis surtout un auteur en burn-out.
Donc, j'ai plus d'idées.
J'aimerais que l'année s'arrête maintenant. Et non, en fait c'est pas un secret, mais c'est que j'ai un co-auteur formidable qui s'appelle Guillaume Crémonès, qui est le réalisateur de la série Il revient quand Bertrand, et qui m'aide. En fait c'est quelqu'un qui est plus intelligent que moi, moins drôle mais plus intelligent.
Vous êtes surtout très modeste vous, j'ai l'impression.
Et en fait il m'aide parce que lui déjà, ce qui est cool c'est qu'il a 10 ans de plus que moi, donc moi j'arrive avec l'idéalisme et lui il me recadre avec la réalité en fait. Donc j'ai pensé toujours cette espèce de rôle d'éternel étudiant en disant mais on peut faire bouger, et lui dit calme-toi, et c'est comme ça que naissent un peu les paradoxes, et c'est là de là que vient l'humour en fait. Comment il y a un idéal projeté que lui me casse un petit peu. Ça fait de grandes discussions, parfois pas très prolifiques, mais en même temps, c'est vraiment comme ça que ça marche.
C'est bien de travailler avec un ancien. Moi j'ai Jean-Philippe Ballas, voilà, comme ça, ouais. 10 ans d'écart, ça me permet de me bonifier.
Alors, c'est vrai que c'est bien les vieux.
Je suis désolé, les amis, de casser l'ambiance, mais comme disait le poète, la vie n'est pas une farandole rieuse, mais un tunnel lugubre dont certains ne voient jamais le bout.
Ah, Oscar Wilde.
Non, François Valéry, c'est l'heure du quiz. Cher Bertrand Isla, pour le duel du jour et pour rendre hommage à Brout, nous allons tenter de savoir qui de vous ou de Eva sait reconnaître un vrai titre de presse et un titre de presse parodique.
J'ai tellement l'impression.
Une bonne réponse,
quiz.
Un point, c'est parti. Eva, un magicien devient allergique à son lapin. Vrai ou faux titre de presse?
Oh bah ça c'est possible, oui, vrai.
Je ne vous demande pas de savoir ce qui est possible.
Oui, je dirais vrai, vrai.
Vous dites vrai?
Oui, je dis vrai.
Réfléchissez bien, Eva.
Je dis vrai.
Essayez de bien entamer ce quiz.
Je dis vrai.
Partir du bon pied.
Je dis vrai.
Après 123 défaites d'affilée.
Je dis vrai.
Je dis vrai, c'est la bonne réponse. Ça c'est tout fait pour vous, Bertrand. Vrai titre. Publié dans Science et Avenir en 2014, un magicien de 34 ans a développé du jour au lendemain des syndromes respiratoires. Il a dû trouver un autre job à temps partiel.
Mais il pouvait changer d'animal.
Il pouvait changer d'animal.
Bah oui, non, mais s'il y avait plusieurs lapins, c'est des animaux.
Plusieurs lapins, d'accord. Bertrand, à 91 ans, il réalise enfin son rêve, enfoncer une porte de garage. Vrai ou faux titre?
Je n'y crois pas. Et je compte sur votre gentillesse pour commencer avec un titre vraiment très simple. C'est pas possible, on ne peut pas faire un titre avec ça.
Mauvaise réponse.
Non, Bertrand, non.
Mon Dieu, Bertrand, vrai titre, publié dans Le Point, journalisme sérieux s'il en est. Grâce à sa famille et au voisinage, c'est son cadeau d'anniversaire, défoncer une porte de garage avec son véhicule. Tout le monde était ravi, la porte devait de toute façon être changée.
Mais ouais.
Eva, oui. Dieu a répondu aux prières du petit garçon handicapé, il a dit non. Vrai ou faux titre de presse?
Enfin, non, mais pourvu que non. Non, c'est pas possible.
Faux titre, publié aux États-Unis dans The Onion, la référence évidemment en matière de site d'info parodique. Bertrand, évreux, il barre la route des policiers avec une imprimante pour empêcher l'arrestation de son frère. Vrai ou faux titre?
J'ai envie que ce soit oui, c'est tellement désespéré.
C'est désespéré, déjà c'est évreux. Vrai titre, publié dans le quotidien Paris-Normandie. Pour empêcher les policiers de repartir avec son frère de 16 ans qui avait commis un vol de vélo, le cadet jette une imprimante depuis la fenêtre pour faire barrage, à ne jamais reproduire évidemment.
Ah oui, j'imaginais qu'il faisait un barrage sur la route avec plusieurs imprimantes.
Il avait posé et tout.
Un barrage Epson. Eva, après avoir surmonté sa phobie des seringues, il peut enfin se mettre à l'héroïne. Vrai ou faux titre?
Quelle horreur! Ah non, c'est faux ça!
Oh, mais quel flair aujourd'hui! Effectivement, faux titre, c'est publié dans le célèbre Gorafi. J'aime bien aussi dans le Gorafi, 93% des champions de biathlon avouent ne pas regarder le biathlon à la télé.
Ça, c'est vrai!
Enfin, Bertrand, rattrapez-vous. Rennes, Sébastien a couru après son bus pendant 4 km. Vrai ou faux titre de presse?
Allez, je vais dire oui.
Et c'est 3 points, puisque la dernière réponse valait 3 points. C'était la question bonus.
Vous êtes sympa.
Publié dans 20 minutes, vraiment. Il avait déjà tenté de courir plus vite que le métro, sans succès. Contre le bus, c'est ex aequo. Il est arrivé en même temps sur une distance de 3,6 km. Et bah, vous n'aurez pas fait mieux, vous qui courez aussi vite que Marie-Josée Pérec.
Mais ça dépend, parce que si le bus est dans les embouteillages de Paris, je peux même vous dire que je le double le bus, hein.
Quand la logique imparable d'Eva s'invite dans l'émission, vous écoutez l'équipe sauvage. Bertrand Husla est notre invité jusqu'à
18h.
À suivre, Eva, si je vous dis qu'en Espagne, la nouvelle tendance chez les jeunes, c'est les bonbons nounours à l'alcool, vous allez me dire...
Ah, c'est une bonne idée, ça.
Non, où va le monde, Eva? C'est ça que vous voulez dire. Et nous demanderons des comptes à notre correspondant à Barcelone, Henri de la Guérie, juste après Marvin Gaye, Ain't No Mountain High Enough, sur Europe 1. Et plus ça va...
Plus c'est
je parle
dur à dire.
Anglais, hein, comme une merde. On peut le dire. Parce qu'il y a quand même une époque de ma vie où je faisais des échanges scolaires. J'étais quasiment bilingue. Je pensais en anglais. Et là, mais
ça sera toujours
plus
mieux
un
que
mot
moi. Vous inquiétez
l'ordre.
Pas.
C'est une catastrophe.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage. 2 heures pour rire, découvrir et aussi, Eva, humer l'air du temps. Plutôt aujourd'hui, aspirar l'air del tiempo. Pas ce que ça veut dire, mais j'ai tapé sur, vous savez, sur Reverso, sur Internet. Parce que ça m'a donné. Direction l'Espagne, et plus précisément Barcelone, ville de fête par excellence, où la nouvelle tendance est, je trouve, assez choquante, Eva, les bonbons nounours à la vodka.
Tiens, si je te dis ce que j'ai fait samedi soir...
Non, c'est pas une raison, c'est pas parce que vous faites des trucs encore pires qu'il faut pas s'inquiéter de ça. Bonjour Henri de la Guérie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors mon cher Henri, pas de chichi entre nous et les auditeurs, on peut l'avouer, on a été jeunes ensemble, on a même fait des soirées ensemble. Le truc, c'est qu'à l'époque, nous n'avions pas de bonbons nounours à la vodka. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Henri? C'est génial.
Alors écoutez, ouais, c'est assez incroyable. C'est un combat, un conflit, un peu David contre Goliath. La petite entreprise basque Ocitos con alcool, soit, alors je ne sais pas si vous avez le traducteur, mais ça veut dire ourson, ourson avec alcool, d'un côté, contre le géant allemand Haribo de l'autre. Voilà l'histoire. Il y a tout juste un an, lors d'une soirée arrosée justement, mais à Bilbao cette fois-ci, pas à Paris, Mathieu, trois amis décident de produire des oursons en gélatine imbibée d'alcool. Ils reçoivent même de l'argent public pour l'aide à la création d'entreprises et ils se lancent sur le marché. Alors, leurs bonbons pour adultes se vendent sur Internet, dans les bars de nuit et les discothèques. La petite affaire fonctionne bien jusqu'au jour où ils reçoivent une mise en demeure des avocats d'Haribo qui leur reprochent d'avoir violé le droit de propriété. Les oursons alcoolisés ressemblent beaucoup trop au célèbre bonbon allemand. Le cofondateur de cette PME basque, Julen Justa, interrogé par la Sexta TV, pourtant s'en défend.
La forme de nos oursons n'est pas la même. On travaille avec un fabricant qui a son propre moule. D'ailleurs, on a choisi un ourson, on aurait pu prendre n'importe quelle autre forme. On a choisi des oursons parce qu'on les trouvait sympas.
Alors attendez, mais concrètement, Haribo réclame quoi dans cette histoire, Henri ?
C'est simple, hein. Ils proposent deux choses. Soit les Basques arrêtent immédiatement la production de ces bonbons s'ils veulent éviter un procès, soit ils cèdent à Haribo la gestion et la propriété. Ocitos con alcool, voilà, ça ne rigole pas. Et nos trois petits entrepreneurs se disent inquiets, mais ils ne s'arrêteront pas, d'autant qu'ils ne sont pas sur le même marché. C'est en tout cas ce qu'explique Tamar Guigolashvili.
Ça n'a absolument rien à voir. On s'adresse à des majeurs de 18 ans, pas à des enfants.
Mais dites-moi Henri, je vous connais, je connais votre goût pour l'investigation. Déjà très jeune, vous l'aviez d'ailleurs ce goût de l'investigation. C'est bon, vous les avez goûtés j'imagine, vous êtes journaliste.
Non, je n'ai pas eu la chance encore de les goûter parce qu'on les, on les trouve pas toujours forcément facilement. Je vous promets, je vous en ramène à Paris bientôt. Mais sachez qu'il y en a pour tous les goûts, allez passez la commande. On a rhum ananas, gin fraise, vodka orange, whisky cola ou tequila citron, voilà six choix. 15 bonbons en tout cas, c'est l'équivalent d'un verre de gin tonic. Sachez, si vous les trouvez pas sur internet, c'est costaud. Vous pouvez aussi les faire chez vous parce que j'ai tapé sur YouTube. Il y a tout un tas de recettes, c'est assez extraordinaire. Vous mettez les bonbons dans un bol d'alcool. Vous mettez ça au frigo pendant 24 heures. Il faut remuer régulièrement pour que les bonbons ne collent pas entre eux. Et puis voilà, vous avez vos bonbons comme alcool.
Avec modération.
Mais vous m'enverrez quand même au moins 17 paquets de gin fraise pour Eva qui m'a fait un clin d'œil à ce moment-là. Merci beaucoup, Henri. Vous écoutez l'équipe Sauvage, une bataille qui se joue, vous le savez, en deux temps. Deux journalistes vont nous quitter, deux autres vont nous rejoindre. Tous, je le rappelle, ne vivent plus, ne respirent plus que pour un objectif, décrocher la couronne de chroniqueur du jour. À ce stade de l'émission, notre invité a déjà pu se faire globalement une idée du niveau général. Bertrand Huskla, vous venez d'entendre nos deux premiers journalistes. Comment vous voyez leur avenir ?
Pourquoi pas des SDF dans la rue ?
C'est un indice sur votre vote, mais rien n'est joué.
16h, 18h, l'équipe Sauvage sur Europe 1.
Intermarché vous propose d'écouter l'arrivage du week-end. Eh oui, c'est la pleine saison des tomates cerises. Et pour aider les producteurs français à vendre leur production au plus vite, aujourd'hui, la barquette de 500 grammes de tomates cerises origine France est à seulement 1,99€ chez Intermarché. Intermarché, tous unis. Soit 3,98€ le kilo, variété ronde ou allongée, catégorie 1, modalité sur intermarché.com.
Bouygues Télécom. En ce moment, ce sont les bons plans du printemps chez Bouygues Télécom. Le nouveau Samsung Galaxy S20 4G avec son appareil photo intelligent est à seulement 1€ plus 8€ par mois pendant 24 mois grâce au forfait Sensation avec avantage smartphone 70Go. Idéal pour capturer les retrouvailles avec vos proches. Et parce que chez Bouygues Télécom, nous avons hâte de vous retrouver, nos boutiques sont ouvertes et nos conseillers mobilisés pour vous accueillir en toute sécurité. Alors à très vite. Offre soumise à condition après remboursement et reprise d'un mobile de 68,90€. Engagement 24 mois.
Moi, je suis moi-même au fil. Je fais tout moi-même. Les économies, c'est moi. Dès que je vois une bonne affaire, paf, je stocke. Comme un écureuil. Sauf que moi, j'ai moins de poils dans les oreilles. Non, les économies, c'est moi. Et Gamme Vert.
Eh oui, faire des économies avec Gamme Vert, ça change tout. Du 21 au 23 mai, Gamme Vert vous offre 50% de remise sur le deuxième sac de charbon de bois identique acheté. 50% de remise.
Gamme Vert, numéro 1 de la jardinerie.
Conditions et magasins participants sur gammevert.fr.
Mercedes-Benz.
Depuis des semaines, vous êtes ce prof de maths du dimanche, ce chef cuistot aux mille et une recettes à base de pâtes, ou ce magicien qui transforme le salon en salle de sport. Mais ça y est, vous pouvez reprendre la route et enfin vous faire plaisir. C'est le bon moment. Votre distributeur Mercedes-Benz peut à nouveau vous accueillir pour vous faire profiter d'offres exclusives sur toutes les Mercedes neuves et d'occasion et vous proposer des solutions de financement flexibles. Vous avez assez attendu, non ? Alors rendez-vous dès maintenant chez votre distributeur pour en savoir plus.
Sur Europe 1,
16h-18h,
Mathieu Noël.
L'attention s'apprête à monter d'un cran dans l'équipée sauvage, la grande battle des journalistes d'Europe 1. Deux nouveaux concurrents vont nous rejoindre. Pour eux, il s'agira non seulement de vous offrir le meilleur sujet, mais également de faire preuve d'esprit et de drôlerie, le tout en déjouant les pièges vicieux que notre invité arbitre leur tendra. Un instant d'inattention, de relâchement et pam, on tombe dans le panneau, comme Anissé Mbida, notre expert innovation hier, qui n'a pas senti que Chaim, notre invité, l'entraînait dans un cruel guet-apens qui allait lui valoir la défaite dans l'émission et un forfait 6 jours cette nuit à l'hôtel du cul tourné avec sa femme, si jamais elle était à l'écoute d'Europe 1.
Je sais qu'il y a beaucoup de porno avec le coronavirus, des films porno sur la thématique coronavirus. Oui, 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 avec les masques et tout. Dès qu'il y a un truc qui marche, le porno s'en empare. Je suis journaliste, c'est mon métier d'enquêter sur tout ce qui est nouvelle technologie, tout ce qui est numérique.
Je le répète toujours à mes journalistes, méfiez-vous de l'invité qui vous pose des questions. Parfois, il est encore plus sadique que moi. Vous confirmez, Bertrand? Je vous sens un peu sadique, vous aussi.
Je savais pas s'il y avait une...
Non,
c'est le vachement. C'est à moi de parler ou pas, je sais pas quoi. Non, je suis pas sadique, je sais pas, j'ai pas prévu.
Juste
j'ai
cru cynique. Vous dites souvent dans les interviews que vous aimez bien le cynisme. Moi, il n'y a pas d'humour sans cynisme.
J'aime beaucoup le cynisme parce que je trouve ça très très méchant. Et j'ai un peu de difficulté avec l'humour bienveillant parce que j'ai l'impression que l'humour c'est surtout une espèce d'arme politique qu'il faut un peu utiliser. Et c'est pour ça que...
Vous êtes assez politique, on va en parler dans la deuxième partie de l'émission.
Mais je sais pas, enfin on me le dit.
Moi, c'est pas conscient, c'est pas.
C'est juste que ça me fait rire. Et rétrospectivement, je me dis, peut-être, en fait, il y a un point de vue et tout, mais après, j'ai l'impression de dégager quelque chose de plus engagé que ce que je suis vraiment.
Parce que vous êtes vraiment dans la vie, finalement. Juste que c'est drôle, donc vous en servez.
Je suis d'extrême droite.
Et on peut le dire, c'est son coming out politique aujourd'hui sur Europe.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipe sauvage. Mathieu Noël.
L'hybridation potache du journalisme et du divertissement, aurait titré Télérama. Une émission sympatoche où on rit et où on apprend des trucs, aurait titré Télépoche. Vous écoutez l'équipe sauvage. 2 heures d'un joyeux foutoir au cours duquel les meilleurs journalistes d'Europe 1 se mettent sur la gueule au service de votre culture G. Un seul ressortira de là avec la couronne de chroniqueur du jour. Vous votez via Twitter pour votre journaliste préféré, sachant que notre invité d'honneur aura son mot à dire. Un invité pour qui l'équipe sauvage est souvent plus qu'une émission, un roller coaster émotionnel. Par exemple, pour la chanteuse Chaim, que j'ai draguée honteusement hier durant toute l'émission, jusqu'à ce que je me trahisse bêtement au détour d'une confidence.
C'est à cause des tâches ménagères. Et oui, dans les couples gays, il y a un partage équitable.
Enfin, Eve, on est en 2020. Moi, si je range pas la petite cuillère dans le lave-vaisselle ou que je nettoie pas le verre, je me fais défoncer.
Mais t'as une copine, ça veut dire?
Oui.
Depuis tout à l'heure, tu me chines et en fait, t'as une copine. Non, mais d'accord, il bouffe à tous les râteliers, quoi.
Très bien. Bon. De toute manière, la question ne se posera pas avec notre invité du jour, Bertrand Huskla, l'inventeur de Brut, la parodie de Brut, qu'on retrouve également dans la saison 2 de Il revient quand Bertrand sur Arte. On continue de découvrir votre univers que j'adore, je le dis, je le redis, je vais le dire jusqu'à la fin de l'émission. Juste le temps de vous présenter nos deux ultimes concurrents du jour. À ma gauche, je tiens à lui présenter officiellement mes excuses. La dernière fois qu'il avait remporté l'équipée sauvage, on avait eu une dégustation de Chablis juste avant. J'ai réussi quand même à l'oublier en l'espace de 10 secondes, j'ai oublié le nom du vainqueur.
Je vais voter pour la chronique sur Brian Ferry.
Merci beaucoup. Pour Fred Goetic, c'était extrêmement serré. C'est donc... J'ai oublié parce que j'ai vu...
Fred Goetic. Ah, mon Dieu.
Bonjour Fred Goetic. Je m'en suis souvenu.
Bonjour Mathieu. Bonjour à tous.
Le directeur de Jazz Magazine et cet après-midi, face à un as de la parodie, vous avez décidé de nous parler de parodie en musique.
Et oui, on se souvient de Peter Sellers, parce que c'est de Peter Sellers dont je vais vous parler. Alors, on se souvient de Peter Sellers dans L'Inspecteur Clouseau, la série des Panthères Roses. Vous vous souvenez peut-être de The Party, le film culte de 1968, Urundi Vibakshi. Mais on connaît peut-être moins Peter Sellers, chanteur qui a enregistré des chansons parodiques, notamment d'un groupe pop anglais très célèbre. Je vous en dis pas plus.
Quatre garçons, peut-être. Un petit peu dans le vent. À ses côtés, Bertrand, un rival pour vous. Lui aussi fait de petites vidéos sur Internet. Il propose des tutos en partenariat avec le site Pornhub.
Oh, mais non.
Bon, alors, les scénarios sont un peu minimalistes, mais disons qu'il y a un début.
Pensez-vous. Ok.
Et une fin.
Bon, bah écoute, on a tout. C'est bon, c'est rentré.
Bonjour Mathieu.
On n'envoie pas votre chaîne YouTube. Vous êtes, comme on l'a évidemment compris, notre expert sport. Oui. Et performance. Et ce soir, vous nous parlez d'un sport que peu de gens connaissent et que pourtant beaucoup en France pratiquent.
Alors, il y a 10 000 adhérents précisément. Je vous parle de colombophilie. Vous savez ce que c'est?
Les fans de la série Colombo?
Non. Tout le monde, vous avez un. J'en habite Paris, dans les grandes villes, vous avez déjà vu des pigeons. Il y en a.
Oui, je crains le pire.
Vous en kikine parfois. Bah, sachez qu'il y en a qui coûtent presque 1,5 million d'euros.
Parce que ce pigeons qui vaut 1 million d'euros?
Des pigeons de compétition.
C'est des courses de pigeons.
Je vous raconte.
Oh, il ne faut pas se tromper quand on vise.
Mais c'est pas de la chasse. C'est de la course de pigeons. Ils courent les pigeons. Et on les tire pas.
Non, ils courent pas.
Ouais, ils volent. Mais exfiltrez-la.
Sujet très prometteur.
Alors, quel sujet l'emportera? Réponse juste avant 18h. En attendant, je me tourne vers notre invité Bertrand Huskla. Vous avez créé Brut, l'alternative comique à Brut, une autre manière de consommer l'info. Mais vous, vous êtes plutôt Brut ou plutôt Brut? On est allé vous poser la question.
Brut ou Brut?
Je suis plus Brut que Brut.
C'est quoi ça?
Bah Brut.
C'est drôle.
Brut. Ça fait penser à autre chose. Les femmes.
Brut, mais non, je n'y vais pas. Ni Brut, ni Brut, ni Brut, ni Brut.
Brut, je pense au salaire.
Brut, c'est un parfum.
Brut, Brut, la campagne ou autre chose. Voilà.
Ça existe, Brut?
Brut, c'est détourner l'information, non, c'est ça?
C'est comme Combini.
Non, mais bon, les médias actuellement... on parle du coronavirus et...
Brut, des petites vidéos sur Instagram.
Moi, je vois leurs vidéos sur Facebook, en fait.
C'est sur YouTube aussi.
Je cliquerai, surtout si c'est Brut.
Alors, c'est marrant, oui. Il y a vraiment deux écoles. Alors, déjà, moi, je suis censé connaître un petit peu ce qui se fait dans le métier. Et je ne connaissais pas, enfin je connaissais Brut en fait, mais je ne connaissais pas Bertrand Huskla.
Ah,
je
n'avais
pas vraiment...
Vous n'avez pas mis un nom sur un
visage. Exactement. Ouais. Pourtant, vous êtes une star sur Internet.
Alors,
j'ai regardé vite fait hier, donc du coup,
vous
découvert.
Avez des millions de vues.
Oui,
ça, le dire.
Ouais, ça oui, mais en fait c'est un truc un peu étrange qui se passe, c'est que le moi c'est la première fois que, ça fait quand même maintenant 5-6 ans que je suis sur internet, avec avant j'avais un collectif, enfin avant, non
ils sont toujours là,
toujours là vivants, et on est potes et on est ensemble, qui vont bientôt sortir, je les embrasse, mais j'avais commencé avec eux, avec une équipe en fait, avec une équipe, et là c'est la première fois, en fait je faisais tout ce qu'il fallait pas faire en fait, on était cinq, sur internet on était cinq, on était des acteurs avec une formation classique, qui voulaient faire du sketch avec de la fiction qui prend du temps, c'est tout ce qu'il faut pas faire sur internet. Il faut des infos rapides, cut, ouais. Des personnages identifiants. Et en fait, avec Brut, c'est la première fois en fait, de ma vie. Ça a commencé en septembre. Alors, pas le programme Brut, mais l'ultra-régularité du programme a commencé en septembre. C'est la première fois que je joue un peu les règles de l'algorithme sur Internet. C'est-à-dire revenir fréquemment deux fois par semaine. Et c'est ça, en fait...
C'est le tempo qui fait le succès sur Internet?
Je pense. Et vraiment, ça me crève un peu le cœur de le dire. Parce que je pense que pour tous les gens qui veulent faire des trucs de qualité long réfléchis en autoproduction, c'est de plus en plus compétitif et difficile. Et là, c'est la première fois, grâce à l'apport de Canal+, que j'ai une régularité, je suis obligé de fournir. Et ce qui développe aussi un truc formidable, c'est que même des idées qui sont très très mauvaises, comme on est obligé de les faire, elles deviennent géniales. Donc des trucs, j'aurais pas l'idée de faire ce truc-là, et puis non, on n'a pas le choix, faut rendre des trucs, et ça fait des trucs assez beaux. J'en avais fait un sur la disparition du Rasta blanc, comme si c'était un animal disparu avec des images d'archives. Et ça, si j'avais pas été produit, si j'avais fait ça tout seul, mais jamais je vais sortir un truc comme ça, quoi.
Une question beaucoup plus pragmatique sur les sources de revenus.
Oui.
Qui vous paye? Comment ça marche en fait?
Ce qui me paye, c'est Canal+, ou Arte quand je fais Le Revient quand Bertrand. C'est des, en fait, ce sont des pôles de fiction. Ce sont des pôles qui ont suffisamment d'argent à mettre en fait pour développer une marque éditoriale forte pour défendre une chaîne en gros. Donc moi, je suis pas payé par YouTube. YouTube me paye rien en fait. C'est ridicule. Là, je peux vous dire, c'est 1 500 $ par mois qu'on fait sur la chaîne.
Ouais. Alors que vous avez des millions de vues.
Alors qu'on a des millions de vues et qu'on a une équipe de, au minimum 4-5 personnes, au minimum 4 acteurs et parfois jusqu'à 30 personnes sur un plateau. Donc si on doit tous se diviser, je pense qu'au moins les charges, tous les trucs à payer, ça ferait 70 centimes par mois par personne.
On embrasse l'URSSAF quand même. Brut va vous faire hurler de rire. Bertrand Huskla est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
Et que les amoureux du LOL, les déglingos du PTDR se réjouissent, car pour s'offrir une bonne tranche de rire, quoi de mieux que de donner la parole au directeur de Jazz Magazine. Fred Goetti revient sur ces parodies qui ont marqué l'histoire de la musique, et à cette idée, je sens que notre invité Bertrand Huskla se dit...
Mais pourquoi?
Non, génial, j'ai hâte, c'est ça que vous dites. À tout de suite.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures pour flatter vos zygomatiques sans pour autant bouder vos cervelles, en compagnie des meilleurs journalistes d'Europe 1 qui défilent au micro pour vous offrir ces infos que vous serez tout fiers de replacer ce soir au dîner. Et justement, l'heure est venue d'écouter notre troisième concurrent du jour. Il est au jazz ce que Philippe Manœuvre est au rock. Beaucoup de gueule, mais après, en off, en revanche, c'est une autre chanson, moins rock.
On est là pour le rock'n'roll, kids. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau chaude sur montée de quelqu'un qui serait dans le coup de l'assistana?
Fred Goetti, vous êtes le directeur de Jazz Magazine et aujourd'hui, en hommage à notre invité Bertrand Huskla, génie de la parodie, vous nous proposez un voyage dans les parodies musicales. Une précisément.
Oui, Peter Sellers. Du coup, je n'ose même plus dire qu'il était batteur de jazz à l'origine, ce qui est vrai en plus. Peter Sellers, avant d'être une vedette de cinéma hollywoodienne. Mais dans les années 50, il a surtout été aussi l'une des vedettes d'un feuilleton radiophonique de la BBC, extrêmement populaire et tout à fait loufoque, hein, qui s'appelait le Goon Show. C'était énorme en Angleterre, ça. Alors, grâce à cette notoriété, il s'est mis à enregistrer des comedy records, des 45 tours et des 33 tours aussi, truffés de chansons parodiques. Et le producteur de ces disques, eh ben, c'était un certain George Martin.
Ah oui,
George Martin, le producteur des Beatles.
Lui-même, le George Martin qui supervisa, parmi tant d'autres chefs-d'œuvre des Beatles, cette chanson bien connue de nos auditeurs. Alors en 1965, Peter Sellers et George Martin se rendirent au fameux studio Abbey Road pour enregistrer une nouvelle version de The Hard Day's Night. The Hard Day's Night, c'est pour moi, je sais. Avec un arrangement baroque et chanté, ou plus précisément récité, à la façon de Laurence Olivier, comme si c'était Richard III.
It has been a hard day's night and I have been working like a dog.
Ça fait penser au Monty Python.
It's been a hard day's night. I should
be. Et le texte est sacré,
like
comme du Shakespeare.
But when I get home,
on ne change pas une ligne.
I find the things that you do.
Ah, c'est génial.
Will make me feel.
Et oui.
All right.
Ah, mais sa prochaine soirée que je fais, je le mets. Hein.
Ah,
à mon avis, tu crées un moment dans la soirée qui est mythique.
Je vous l'offre. Alors, sur la face B de ce 45 tours, hein, qui a grimpé jusqu'à la 14e place des hit-parades anglais, il y avait une autre reprise parodique des Beatles. Alors, réécoutons là encore la version originale. Help, I need somebody. Help. Alors maintenant, je vais vous demander un peu de silence, s'il vous plaît. C'est un moment solennel. Nous sommes dans un lieu de culte. Et le révérend Sellers va chanter, elle, enfin plutôt va faire son serment.
Help, I need somebody, help, not just anybody.
C'est beau, en plus. C'est beau.
S'il vous plaît, un peu de respect.
You know I need someone.
Production George Martin.
Wow.
When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way.
Ce sont les paroles originales.
Mais oui,
but now these days are gone.
Bon, alors ça,
alors, bon, on va pas jusqu'au bout. À la fin, il passe dans les rangs pour la Beatles Church, l'église des Beatles. Alors. Plus sérieusement, si possible, sachez que Peter Sellers et Ringo Starr, le batteur des Beatles, faisaient très souvent la fête ensemble.
Mais
et qu'ils partageaient même l'affiche d'un film, The Magic Christian, en français, un Beatle au paradis. Bon, ouais. On ne se foulait pas trop pour les titres. Alors, ils étaient si potes que Ringo Starr a offert en 68 à Peter Sellers des bandes inédites du fameux album blanc des Beatles. Elles ont souvent été piratées, ces bandes, dans les années 70. Elles sortaient sous le titre de The Peter Sellers Tapes.
Là, des vrais titres des Beatles
qui avaient été offerts par Ringo Starr à Peter Sellers. Alors, on n'a pas le temps, hélas, mais il a aussi enregistré She Loves You, plein d'autres chansons. Une prochaine chronique, peut-être.
Bertrand, jusqu'à les Beatles, ça vous parle encore ou c'est vraiment une autre dimension?
Qui ça? George Martin? Le mec qui Game of Thrones?
Ce que j'ai failli dire quand j'ai vu.
Non, mais ce que je trouve super touchant, c'est l'espèce de soin apporté à la parodie extrême. Enfin, on entend quand même les chœurs, c'est absolument sublime. Ah, c'est le moment où ça casse. Et moi, je suis toujours impressionné par cette culture un peu anglo-saxonne de l'extrême et américaine et tout ça, d'extrême détail apporté à la parodie absolument parfaite. Je sais pas si c'est qu'une question de moyens ou aussi de soin apporté à ça. Je suis toujours assez fasciné et je vais pas dire que je me réclame de ça, mais je suis très inspiré par ça à chaque fois.
Ben oui, et moi, je tiens à dire que Brut et tout ce que vous faites, c'est extrêmement bien produit avec peut-être des moyens qui sont peut-être pas énormes, je m'en rends pas bien compte, mais en tout cas, c'est vraiment léché, quoi. Je trouve que c'est vraiment très...
En fait, c'est la grande chance de ce qui se passe un peu avec les réseaux sociaux, c'est que je pense que le Brut, le média original, ils ont à peu près autant de moyens que moi, c'est-à-dire rien.
Oui.
Donc, c'est assez cool de parodier des trucs qui ont déjà rien, parce qu'il est possible de le faire, parce que là, on peut mettre que du soin à. Donc, je pense que Brut coûte un peu plus cher que Brut, parce que nous, c'est quand même de la fiction. Mais quelque part, c'est un vrai plaisir de pouvoir se dire, ah tiens, je peux enfin parodier quelque chose. C'est comme parodier, si je veux parodier cette émission de radio, c'est plus simple. Et le podcast, d'ailleurs, commence à s'en donner à cœur joie sur ces jeux de forme. Et je trouve ça très, très intéressant parce qu'en fait, c'est le peu de moyens économiques qui permet de parodier très, très bien les choses.
Et parfois, avec peu de moyens, ça booste la créativité.
Ah,
ouais, vous êtes d'accord
clairement.
Avec ça. Je sais pas si on a un bon exemple de ça, mais faut bon.
Ah, si
je le dis comme
super
ça.
Super créatif, il y a Yuka.
Bertrand Isclay, notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
Le vendredi soir, il y a deux profils. Ceux qui vont se la coller dans un afterwork avec leurs collègues. Et ceux qui vont passer leur soirée seule devant MyCanal avec une tisane l'éléphant bleu.
Pour les premiers, on ne peut rien. Pour les seconds, on a Eva Rock qui vous guide chaque soir dans la jungle des programmes télé. Et je vais vous réaliser, c'est pour ça que je ris bêtement, c'est que j'ai dit la tisane l'éléphant bleu. C'est les tisanes éléphants. L'éléphant bleu, c'est une station de lavage pour les voitures. C'est une autre marque.
Quelle catastrophe.
À tout de suite quand même.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipée sauvage. L'équipée sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Quand l'humour le plus leste fricote avec le journalisme le plus pointu, vous écoutez l'équipée sauvage. Deux heures de rire, de découverte, mais également de bons conseils.
Écoute ta mère et mange ton short.
Notre invité le note, il s'agit du créateur de Brut que vous retrouvez également en ce moment dans la web-série d'Arte. Il est où Bertrand? Bertrand Huskla, vous êtes une star du
il
web.
Revient quand, il revient quand Bertrand?
Qu'est-ce que j'ai dit?
Il est où Bertrand?
Ah oui, ouais. Il est où Bertrand? Il est là. Il revient quand Bertrand? Évidemment, excellente série que vous retrouvez sur le site arte.tv. Vous avez une idée du nombre de vidéos auxquelles vous avez participé? Parce qu'il y a la qualité, mais alors la quantité est aussi au rendez-vous. Hein.
Eh ben, j'arrive pas à me dire si c'est vraiment grand ou pas. Enfin, je pense pas. Comparé à ce que font les autres personnes sur Internet, nous, on est des créateurs qui ont poste pas grand chose en fait.
Bah quand même, il y a déjà deux broutes par semaine, non?
Ouais, mais depuis septembre, il y a des gens qui font genre trois vidéos par jour depuis 10 ans, quoi. Donc c'est vrai que moi, je me. Après, on trouve toujours plus grand que soi, c'est pour ça, c'est peut-être ce syndrome que j'ai, mais genre, il est plus grand que moi, je sais pas quoi. Mais nous, on a un rythme, avec mon collectif Yes Vous Aime, on devait avoir un rythme de vidéos, de publication de vidéos de 8 par an. Ce qui était pas fou. Et c'est que depuis Brut, en fait, ce que je disais que tout à l'heure, en fait, que d'un coup, je me dis, bon, allez, je joue un peu le jeu de l'algorithme.
Vous êtes sollicité par le cinéma, par d'autres médias depuis le succès de Brut?
Pour ma réputation, je devrais dire oui. par honnêteté, je vais dire non. Voilà.
Ça me paraît très étonnant.
Non, ça commence. Non, en
ça commence, c'est des petites touches.
Ça commence un peu, mais c'est bizarre. C'est un truc qui me faisait rêver avant le cinéma. On pouvait faire plein de choses, raconter de belles histoires, à toucher des comédiennes aussi apparemment. Donc
vous savez
qu'il faut faire. Mais maintenant, ça fait de moins en moins rêver parce que je commence vraiment. Enfin, moi, je m'éclate avec ce format. J'ai des envies un peu de seul en scène.
Donc vous êtes peut-être plus libre en seul en scène et dans des formats comme Brut que dans un film.
C'est un petit peu ça en fait. Donc je peux un peu m'amuser. Je commence un peu à avoir les moyens de créer des trucs et c'est assez confortable en fait.
Alors Bertrand, quand vous ne tournez pas, est-ce que vous regardez parfois les écrans? Est-ce que vous êtes un gros consommateur?
Alors oui, mais alors là, ça fait longtemps que j'ai pas regardé quelque chose.
Eh bien, figurez-vous que selon une étude de l'université d'Oxford, on perd désormais tous chaque soir 17 minutes à s'engueuler avec son conjoint ou sa conjointe pour savoir ce qu'on va regarder sur Netflix ou MyCanal ou autre plateforme. Heureusement, Dieu a créé Eva Rock et sa rubrique précieuse, 17 minutes de gagner. Quel est le programme aujourd'hui, Eva?
Mais deux nouveaux contenus, Mathieu, avec une série un peu ovni et une série ovni aussi. On va commencer avec la série produite en exclusivité pour le site d'Arte, arte.tv, qui est une série à la fois documentaire et fiction pour raconter l'histoire du hip-hop à Atlanta, aux États-Unis, une ville dans laquelle est né un duo, ce duo.
Outkast.
Exactement, Outkast, groupe qui n'a plus sorti d'album depuis 2015. Alors un certain Larry, qui est incarné par le comédien et humoriste belge Cody Kim, va débarquer dans cette ville du Sud pour tenter de trouver les membres du groupe et les convaincre de repartir en studio. C'est l'occasion pour lui de multiplier des rencontres avec ceux qui font la scène du hip-hop aujourd'hui et d'un courant en particulier. Ça s'appelle la trap. C'est une musique qui est très noire, violente souvent, qui raconte le ghetto, la drogue, trap en anglais pouvant se traduire par piège mais aussi zone pour les dealers.
Je sais pas si t'as remarqué un truc, mais tous les gens qui écoutent Outkast, ils ont l'air d'avoir genre leur bagnole, leur propre voiture. Et tous ceux qui écoutent de la trap, ils ont l'air d'habiter chez leur mère encore. Il y a un truc à creuser. Je suis pas sociologue, mais il y a un truc à creuser.
Alors Larry, pour être totalement honnête, c'est un peu le Raphaël Mesrahi du rap. Il va poser des questions avec naïveté, il aborde les gens avec une sorte de détachement absolument lunaire. C'est un personnage qui se balade alors d'une boîte de striptease où aller régulièrement Outkast au studio d'enregistrement. Et sur sa route, il va croiser notamment Bone Crusher, c'est un célèbre rappeur qui est très imposant physiquement, hein. Vraiment, il fait un peu peur et avec qui il arrive à devoir prier pour un retour d'Outkast.
Nous prions pour que sorte un nouvel album d'Outkast. Quelque chose de fantastique, quelque chose d'incroyable. Quelque chose de remarquable. Retournez au studio Stankonia et faites quelque chose de fantastique.
Vous avez vu comme il prie vraiment, voilà, chaque rencontre prête à sourire et amène une information quand même supplémentaire sur ce que représente le rap dans cette ville, ses codes, sa culture, les messages véhiculés. C'est très bien écrit, c'est informatif tout en étant ludique sur la forme. Et puis Cody Kim est parfait en ce Tintin perdu dans Atlanta. J'attends avec impatience la saison 2. Pour l'instant, il y a 10 épisodes de 8 minutes qui sont disponibles gratuitement sur le site arte.tv.
En 8 minutes, on peut picorer ça.
Exactement.
Rapidement.
Exactement.
Trajet en métro, par exemple, avec son masque.
Hop, exactement.
8 minutes.
C'est une très bonne idée.
Ouais.
est votre deuxième ovni, Eva?
Je me suis lancé un défi toute seule parce que je sais que vous regardez beaucoup de séries, Bertrand Huskla, et je voulais vraiment vous faire découvrir. Je sais que vous en regardez beaucoup des séries. Donc je voulais vraiment vous faire découvrir une série. Je me suis dit peut-être qu'il la connaît pas, celle-là.
Black Mirror. C'est...
Non, quand même, n'exagérez pas.
Mais oui,
c'est une série assez loufoque, notamment grâce à ses dialogues hilarants.
Hi, mitt namn är Magnus Undredal.
Là c'est en norvégien, bon voilà, mais c'est sous-titré et c'est, ça s'appelle Magnus et c'est beaucoup plus drôle que Magnum. Il n'y a pas de palmiers mais des sapins, il n'y a pas de plage hawaïenne mais des étendues de neige, il n'y a pas de détective privé mais Magnus donc qui est un flic d'une bourgade norvégienne qu'on retrouve dans son lit un matin avec un drôle de robot à côté de lui.
Bonjour, mon nom est Magnus Undredal. Il paraît que je suis l'enquêteur le plus nul du poste de police de Frestad. Ça c'est Danny, ma première invention. Mais sûrement pas la plus géniale. Sa seule fonction est de scanner la tête de quelqu'un pour savoir si c'est un homme ou une femme.
Vous êtes une femme.
Bonjour, Dani.
Femme. Vous êtes une femme.
Voilà 14 ans que je travaille sans relâche pour prouver que je suis un génie.
Et c'est pas du tout un génie, mais alors comment vous décrire cet ovni, alors qu'il est à voir sur le site mycanal.fr, et c'est que sur le site de Canal+. C'est une série policière, alors on parlait de Peter Sellers, mais c'est un peu ça, c'est le Peter Sellers norvégien, alors qui croise des trolls, des méchants américains, qui fait équipe avec un autre policier dont le projet de vie est quand même de se suicider, mais il y parvient jamais. Et puis un petit garçon d'une douzaine d'années, tête de turc des autres gamins, mais qui est très bon conducteur, parce que oui, dans cette série, un petit garçon de 11 ans a le droit de conduire sans que ça gêne qui que ce soit. C'est absolument, mais hilarant. C'est vraiment la garantie d'éclat de rire, à supposer que vous soyez sensible quand même à l'humour second degré et à l'absurde.
Et
tout est incroyablement
et norvégien. C'est quand même beaucoup
mais
de conditions.
Tout est incroyable, mais vraiment au sens littéral du terme. C'est hilarant avec des acteurs parfaits qui ont un seul défaut, c'est leur nom et leur prénom qui sont imprononçables. Et donc je vais pas m'y coller du tout. Je vais même pas essayer. En revanche, essayez Magnus en version originale parce que c'est vraiment mieux. Et c'est sur mycanal.fr. Il y a 6 épisodes et j'ai ri du début jusqu'à la fin. Tellement je me demandais de ce que j'étais en train de regarder, mais c'est génial, franchement.
Mais en même temps, vous riez à chacune de mes blagues, donc je ne sais pas si c'est une référence, votre humour. Mais enfin bon, merci.
Oh bah, j'espère pour vous quand même.
Je vous fais des bisous. Non, c'est un très bon choix, voilà. Vous m'avez vraiment donné envie de regarder aujourd'hui, je ne sais pas vous, Bertrand.
Mais en VO, regardez-le en VO, vraiment. Parce que le côté norvégien amène un truc encore plus absurde.
17 minutes. Le côté. On embrasse nos amis norvégiens qui nous écoutent. Ils découvrent qu'ils sont absurdes en eux-mêmes, en étant norvégiens. 17 minutes de gagner, c'était Eva Rock.
Europe 1.
C'est toujours une connie.
Allez, c'est bien.
C'est toujours une chronique très attendue dans l'émission. Bertrand Huskla, comme ça, au débeauté, sans réfléchir. Si je vous dis Jérôme Lacroix, qu'est-ce que ça vous inspire?
C'est un nom de merde. Ce qui me va, hein. Moi, je suis habitué au nom de merde, puisque je m'appelle Bertrand.
De quoi mettre en confiance notre ultime concurrent du jour, notre expert sport, Jérôme Lacroix, arrive pour nous transmettre sa passion pour un sport encore injustement confidentiel, le lancer de pigeon. Ça sera juste après Robbie Williams, Tripping sur Europe. Tripping, c'était Robbie Williams sur Europe 1. Vous aimez bien Robbie Williams, Eva?
Ouais, j'aime beaucoup, surtout ses reprises jazz.
Oui, mais physiquement?
Ah non, pas trop.
Oh, d'accord, bah voilà, c'est dit.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, l'émission qui est à l'infotainment ce qu'un pogo est un concert d'ACDC. C'est-à-dire à la base, 2 heures d'une baston éditoriale entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 que vous départagez via Twitter sous l'égide d'un arbitre d'honneur. Aujourd'hui, c'est le comédien Bertrand Huskla qui nous offre généreusement son arbitrage.
Avec une petite commission de 15% parce que le chiffre bien qu'on mange. Hein.
Bien sûr, tout ça a été dilé en amont. Alors Bertrand Huskla, vous êtes, on le rappelle, le créateur de Brut, cette alternative cocasse à Brut, en exclusivité pour Europe 1 cet après-midi. Est-ce que vous pouvez nous donner le thème du prochain Brut?
Ça change tout le temps.
Comment ça change tout le temps?
A priori, on devrait parler de confinement si j'arrive à le tourner, celui-là. Mais normalement, c'est un peu le sujet obligatoire, quoi.
Alors, il y a des sujets comme ça qui sont un peu imposés par l'actu, notamment le coronavirus. J'imagine
que je peux pas passer à côté. Mais c'est drôle parce que j'en ai un que j'ai tourné. Ils vont peut-être me flinguer à Canal si je dis ça, j'en sais rien. Mais en fait, il y a eu un truc. J'en avais fait un sur l'Italie. Et il y a eu une petite crise entre Groland et l'Italie.
Ah oui, c'est
Groland
vrai.
A sorti un sketch.
Effectivement,
qu'elle
est très vexée, l'Italie.
Moi, je le trouvais très drôle. Mais ouais, c'est des sensibilités. Ça se discute pas. Et ça a été, c'est vraiment monté en échalote. Et on est
monté en échalote.
Ça n'existe pas.
C'est bien de rencontrer un jeune qui a des expressions encore plus ringardes que moi.
Je ne pas piquer les hannetins, tout ça. Bon. Et donc, du coup, il y a dû avoir un peu des excuses de Canal vis-à-vis de ce sketch. Et moi, j'en avais fait un sur l'Italie qui était pas méchant. Mais Canal a joué la carte politique de on va pas vexer quand même le pays, le copain à côté qui le prend vraiment très très mal. Donc, du coup, je vais sans doute l'adapter. Le retourner, donc c'était un couple de Français qui était bloqué à Codogno en Italie, et peut-être que je vais les faire à Wuhan ou peut-être à Paris.
Face à vous, Bertrand Huskla, un homme attend son heure.
Expert sport d'Europe 1, Jérôme Lacroix est comme Icardi au PSG. On peut ne pas le voir pendant une heure et soudain, paf, il surgit. Méthode de l'attaque surprise qu'il pratique visiblement aussi dans son intimité avec Madame Lacroix, qui doit se plier à un cérémonial très particulier lorsque Jérôme est en forme.
Je me cache, si tu me trouves, tu me fais ça. Et si tu me trouves pas, je suis dans le placard, tout ça, tout ça.
Oui, Jérôme Lacroix, vous occupez actuellement la 9e place du championnat, ce qui est bien, ouais, mais pas top.
Mais pas top.
Et on va pas se mentir, quand vous nous avez proposé votre sujet du jour sur la course aux pigeons, rédacteur en chef de cette émission, il n'y a pas cru tout de suite.
Qu'est-ce que vous voulez, ça nous foutre ?
Et puis, vous avez insisté, il a abdiqué, et vous voilà, il y a un business de la course aux pigeons.
Alors, Jérôme. écoutez, c'est battement d'ailes et c'est roucoulement. Là, on est dans un colombier, c'est l'heure de l'entraînement matinal pour les quelques dizaines de pigeons de cet éleveur, des pigeons voyageurs. Mais attention, on est chez un professionnel, un colombophile, un homme qui élève des pigeons pour les faire participer à des courses. Car oui, c'est un sport, c'est régi par la Fédération Internationale de Colombophilie qui existe depuis les années 1930. Il existe aussi une fédération française. Il y a plus de 10 000 adhérents, des multitudes de courses chaque année en France, notamment dans les Hauts-de-France et dans le monde entier.
Alors, il faut que vous nous expliquiez, parce qu'Eva, visiblement, n'avait pas compris, elle pensait que ça se jouait avec un fusil. Comment on fait la course ? On fait faire la course à des pigeons.
Alors, les éleveurs, ils partent avec, dans des cages, les pigeons de leur colombier, l'endroit où ces pigeons sont nés. Ils se postent, ces éleveurs, avec leurs pigeons à 50, 200, 500, 1000 kilomètres. Là, ils lâchent les pigeons et ils se reposent sur cette merveilleuse capacité naturelle du pigeon qui veut qu'il revienne toujours à l'endroit où il est né, c'est-à-dire à son colombier. Alors, par quel miracle ? Eh bien, c'est un mystère de la nature non élucidé par la science. C'est peut-être une histoire de champ magnétique, de soleil, d'odorat ou de mémoire visuelle. Toujours est-il que ce colombier constitue en tout cas la ligne d'arrivée de ces pigeons. Ils sont équipés d'une puce électronique via une bague à l'une de leurs pattes, un système qui permet de calculer la vitesse du pigeon en fonction de la distance parcourue, et ça détermine ainsi lequel a été le plus rapide. Certains pigeons filent jusqu'à 110 km/h si les vents sont favorables. D'ailleurs, anecdote, pour que le pigeon revienne plus vite à la maison, puisque c'est le but,
on lui fait sentir
juste avant qu'il parte une femelle, voilà, avant de quitter le nid, pour s'assurer qu'il se grouille de revenir. C'est comme ça qu'en 2012, un pigeon français a mis moins de 16 heures pour relier Barcelone à Niorlé, dans le nord de la France, 1044 km en moins de 16 heures.
Alors, il n'était pas déçu en arrivant ?
Non, je sais pas. Après, ils ont mis un rideau au colombier, je sais pas. Alors, cette discipline, elle est méconnue, mais elle est ancienne et elle connaît depuis quelques années un incroyable essor dans certains pays d'Asie, notamment en Chine, principalement en Chine. Plus de 400 000 adhérents à la Fédération nationale chinoise. Et aux éleveurs les plus chevronnés, ça peut rapporter énormément.
C'est ce que vous nous disiez, il y a un vrai business.
Voilà, alors en France non, hein, mais en Chine, on peut parier sur les courses. C'est ainsi qu'un éleveur peut gagner par exemple jusqu'à 50 000 yuan en quelques courses. Ça fait 6 400 €, sachant que le salaire annuel moyen en Chine, c'est environ 10 000 €. Donc ça vous donne un peu l'idée de la grosseur de ces gains. Et certains manias dépensent des fortunes pour acheter les meilleurs champions à plumes. Par exemple, Armando, le pigeon le plus cher du monde, baptisé Armando, récemment acheté 1 250 000 euros par un Chinois. C'est un pigeon belge, parce que oui, c'est en...
Je vous en prie, ne parlez pas comme ça d'Olivier Pouls. Il s'insurge derrière les vitres du studio.
C'est en Europe que ces Chinois viennent acheter leurs pigeons, parce que les meilleurs, ils sont en Belgique et aux Pays-Bas. Un autre pigeon star, pour l'anecdote, a été baptisé Bolt, comme Usain Bolt. Voilà. Alors au total, la colombophilie, c'est un marché qui pèse 1 milliard d'euros par an à l'échelle mondiale.
Et qui dit business, dit dérive.
Alors, il y a du trafic, un marché noir, et Eva, vous avez raison, il y a aussi du dopage. Ces pigeons, ils n'ont rien à voir.
Du quoi, du dopage?
Écoutez, ils n'ont rien à voir, évidemment, avec ceux qu'on trouve sur nos trottoirs. Ils sont dressés, ils sont entraînés tous les jours, on leur fait faire des sorties plus ou moins longues pour qu'ils se musclent, pour que musclent leurs ailes, mais aussi tout leur corps. Ils sont nourris avec des graines spécifiques. Et certains trouvent malin, c'est quand même assez pathétique à dire, de doper leurs pigeons, notamment à la cocaïne. On a déjà retrouvé des pigeons dopés avec de la cocaïne. D'ailleurs, il faut dire que de nombreuses associations de défense des animaux, ça faut vraiment le dire, militent pour interdire la colombophilie et les courses. Parce que beaucoup de pigeons, d'épuisement, eh bien, ils ne survivent pas à ces courses.
Alors justement, question subsidiaire d'Olivier Pouls, qui est en régie et qui nous demande si celui qui arrive dernier, on peut le bouffer. C'est une question n'importe qui n'engage quoi. Que lui, hein, je tiens à signaler, mais voilà.
Mais non, je réponds pas.
Merci Jérôme Lacroix. Petite imitation du pigeon pour finir.
J'avais prévu de le faire un peu plus tard dans l'émission.
Oui, non, mais parce qu'on sait que vous tenez très bien Gérard Depardieu.
Bon alors, on n'a plus le droit de ploter, bon alors.
Donc on attend avec hâte votre imitation du pigeon. Europe 1. Se cultiver, c'est une chose, mais comme disait Maïté, faudrait pas oublier de bouffer. La question va donc rapidement se poser, qu'est-ce qu'on va se mettre de bon sous la dent ce soir, Bertrand, une idée ?
C'est ma bite.
Une autre Une autre idée alors. Celle d'Olivier Pouls, notre expert gastronomique. Enfin, je veux dire, l'idée. L'autre idée d'Olivier Pouls, notre expert gastronomique qui chaque soir nous propose une recette de dernière minute.
Europe 1, l'équipe est sauvage. 16h, 18h. Sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Quatre journalistes, une seule couronne de chroniqueurs du jour. Le stress envahit nos compétiteurs, d'autant que durant la coupure pub, Bertrand Huskla, notre invité, leur a mis un sacré coup de pression.
Vos putains d'anecdotes de discothèques de province, vous les gardez quand vous allez draguer sur vos putains de congés payés, mais au boulot, vous faites votre boulot.
Bertrand Huskla. Il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé. On a parlé de Brout sur Internet. On a parlé de non pas il est où Bertrand,
mais il revient quand
Bertrand sur Arte. On n'a pas parlé d'un projet, la scène.
La scène, ouais, bah ça arrive tout doucement. Et je trouve ça pire que le saut à l'élastique. Je comprends pas pourquoi les gens s'infligent ça. Je commence à le faire.
Mais
ça commence. Ouais, parce que je sais pas, c'est parce que c'est idiot en fait, et je comprends en fait l'espèce d'idiotie, d'autoflagellation, d'aller s'humilier sur scène pour arriver à un diamant poli, quelque chose comme ça. Donc voilà, je me cherche encore, je sais pas très bien ce que je veux faire. Il y a une espèce de mélange de stand-up, de chansons beaucoup que j'aime faire, où je m'accompagne à la guitare, et des jeux de forme beaucoup. Ouais, en fait il y a un humoriste américain qui s'appelle Bo Burnham. Encore une fois, je me dis pas que je me réclame de lui, mais c'est vraiment le déclic où je me suis dit ah, en fait il est possible de faire ça. Il joue des codes du stand-up pour ensuite en faire une forme qui n'est pas du stand-up. Il le rappelle sans arrêt et je trouve qu'il y a une réflexion parodique en réalité.
Attends, j'appelle quand même copie comique pour être sûr.
Non, je le dis, j'ai plagié.
Pour vérifier un petit peu.
De défense Gad Elmaleh, j'ai dit oui, bah voilà. Ouais, voilà.
C'est un hommage.
C'est un hommage.
Oui. Dans une de vos vidéos, vous imaginez des légumes réalisés à partir de viande.
À la base, c'est un ami végan. Il m'a fait manger un steak et à la fin, il m'a dit ah, je t'ai bien eu, c'était du pois chiche. Bon, j'ai fait la même chose. J'ai fait bouffer une ratatouille, pour la fin, je lui ai dit c'est la tête de veau.
Vous savez que ça existe? Anissa Mbida nous en a parlé.
Et oui, c'était une carotte.
En Inde. Ouais. J'ai vu ça, ouais.
Alors voilà. Alors justement, Bertrand, à l'heure où nos estomacs commencent à se manifester par différents couinements, il est temps de se pencher sur le dîner de ce soir. Un dîner qui, hélas, ne va pas se faire tout seul. Heureusement, il y a Délice in Extremis. Bonjour, Olivier Pouls.
Bonjour mon cher Mathieu, bonjour les amis.
Chaque soir vers 6h moins le quart, une recette ô combien économique, ô combien facile, mais ô combien goûteuse. Et aujourd'hui Olivier, vous allez guérir une de mes plus douloureuses blessures d'enfant.
Ah
toi aussi, tu as rêvé de toute ton enfance de célébrer ton anniversaire au Buffalo Grill, et ce moment n'est jamais arrivé. Tu as toujours rêvé de voir 13 serveurs intérimaires déguisés en cow-boy t'apporter une pièce montée en carton pour que tu souffles sur des bougies qui ne s'éteignent pas. Olivier Pouls ouvre en quelque sorte un Buffalo Grill ambulant dans les studios d'Europe 1, puisqu'il nous prépare des ribs.
Eh bien mon cher Mathieu, je vais remédier à cette frustration,
ah,
et
oui,
c'est promis. Pour votre anniversaire, je vous invite au Buffalo Grill.
Ah non, parce que je ne suis plus enfant, Olivier. Je préfère le type de restaurant où vous m'emmenez aujourd'hui. Vous voyez, je préfère ces restaurants-là.
Sinon, on a parfois des vieilles blessures qu'il faut savoir réparer.
Avançons sur les ribs alors.
Alors, on va donner la recette de ces ribs, ce qu'on appelle les côtes découvertes ou encore le travers de porc chez nous.
Qu'est-ce qu'on demande à la boucherie?
Un travers de porc. Alors, l'avantage, c'est que c'est une pièce qui est vraiment, vraiment bon marché. C'est autour de 10 euros le kilo, donc c'est vraiment quelque chose de pas cher. Et le grand secret de la réussite de ces ribs façon texane ou louisiane, puisqu'on en mange dans une grande partie des États-Unis, c'est la marinade.
Ouais.
C'est la manière de le préparer avant. Une marinade qu'on doit préparer 10 heures avant si on veut que les ribs soient vraiment bien goûteux.
Pour le week-end, quoi, presque.
Exactement. Donc vous allez chercher votre travers de porc, et pour la marinade, vous allez mélanger un petit peu de miel, vous allez mélanger de la sauce soja, du gingembre, un peu d'huile, beaucoup de poivre, un petit peu de coriandre également, et on va bien tartiner nos ribs, qu'on va mettre ensuite au frigo pendant une dizaine d'heures, de manière à ce que la marinade s'imprègne un peu dans la viande. Ensuite, pour la cuisson, c'est relativement facile. On les saisit très rapidement dans une cocotte pour caraméliser le dessus. Et après, on les met dans un four chaud à 200 degrés pendant au moins 30 minutes, de manière à ce que l'intérieur soit vraiment confit. Et c'est cette association du croustillant à l'extérieur et du moelleux confit
à
l'intérieur.
C'est votre truc, le croustillant extérieur et le moelleux intérieur, c'est ce que vous recherchez dans la vie. J'ai
exactement.
De manière générale, c'est même au-delà de la cuisine.
C'est un jeu de texture qui est vraiment passionnant. Et puis, évidemment, on y va avec les doigts. Parce que ça, c'est jouissif.
Mais c'est ça.
Et ce qui est fantastique avec ces ribs, c'est que c'est un morceau, en plus, qui est un morceau gras. Donc, autant vous dire qu'il est bon.
Toutes les conditions sont réunies pour passer une bonne soirée, Olivier.
Bien sûr. Et donc là, vous détachez vos petits travers les uns après les autres, et là, vous sucez l'os avec la viande qui se détache.
Jean-Philippe Ballas.
Aux États-Unis, je suis allé dans un festival de ribs.
Alors,
vous imaginez, on parle de marinade, vous avez une cinquantaine de stands, ce ne sont que des stands de ribs. Alors, le graillon, vous rentrez chez vous,
c'est
les,
fini.
Les fringues, c'est même pas la peine de les laver ou les jeter.
Je l'ai fait aussi, là-bas, les cuits sur des barbecues énormes, ouais. Et il y a un orchestre de country qui vous apporte la musique, c'est fantastique.
Vous vous raconterez vos souvenirs et ce reportage qui avait certainement valu le prix Albert Londres à l'époque sur le festival des ribs à Jean-Philippe Ballas. Merci Olivier, qu'on retrouve tous les samedis, évidemment, dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Une nouvelle édition de l'équipe est sauvage touche à sa fin. Une fois de plus, à l'issue de ces deux heures, l'autosatisfaction est de mise. Une fois de plus, nous avons su combiner infos de première qualité, regard décalé sur le monde, drôlerie de chaque instant. Et une fois de plus, nous avons su accueillir un invité d'honneur dans des conditions optimales. Café, petit four, champagne, on peut le dire Eva. Bertrand Huskla a été reçu comme un roi.
J'ai pas assez pour payer la prostituée.
Oh, ça c'est pas grave, bien sûr, on fera moite-moite. L'heure est venue, en tout cas, d'élire notre chroniqueur du jour. C'est le moment du quitte ou double. Ils ont chacun 10 secondes pour vous convaincre. Jérôme Lacroix, pourquoi Bertrand Huskla devrait-il voter pour vous?
Bah, vous avez tué mon effet tout à l'heure, c'est là que je voulais imiter le pigeon.
Ah bah, mais je n'ai pas, je n'ai rien tué du tout.
Alors,
libre à vous. Il sait aussi imiter le pigeon, c'est dire s'il a bossé son sujet. Jean-Philippe Ballas, pourquoi voter pour vous?
Parce que mon vrai métier, c'est d'être sur la matinale d'Europe 1, parce que je suis bien gentil de rester tard l'après-midi pour vous, Mathieu Noël, malgré mon grand âge, que vous ne manquiez pas de rappeler régulièrement.
Je le souligne souvent, c'est vrai.
Et puis parce que je vous ai peut-être donné envie de prendre des photos de votre famille, tout simplement.
Oh, et ça, c'est pas mignon.
Ouais.
Merci Jean-Philippe Ballas. Anne Le Gall, pourquoi voter pour vous ce soir?
Eh bien, parce que face au coronavirus, face à la limitation des 100 km pour se déplacer, il y a le yucca, il y a les arbres qui nous donneront du bonheur et qui vont nous déstresser.
On rappelle votre sujet, c'est-à-dire qu'il faut aller shooter en forêt. Enfin,
voilà.
pas se shooter en forêt, il faut aller se shooter
de forêt
en se baladant dans la forêt.
Et ça rend
attention,
plus performant.
N'interprétez pas mal mes propos. Fred Goetti, pourquoi voter pour vous?
Eh bien, cher Bertrand Huskla, comme ça, il n'entendra plus jamais les chansons des Beatles de la même manière. Il a découvert les parodies extraordinaires de Peter Sellers. Donc, si vous pouviez glisser ce petit bulletin dans l'urne, je vous le donne.
C'est vrai. Préparez son bulletin.
Je le prends. Voilà. Merci beaucoup.
Un bulletin de vote pour vous?
Carrément, oui.
Ouais. Bah, carrément, il y a la production, quoi.
Waouh.
Ah ouais.
Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
C'est Jean-Philippe Ballas qui a son fan club qui gagne les deux points.
Que dire?
C'est Jean-Philippe Ballas qui a son fan club ou qui a fait un bon sujet? Vous le dévalorisez, Eva,
quelque part. Non, je le dévalorise pas. Il a un fan club sur Twitter. Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'êtes pas sur Twitter, vous ne pouvez pas comprendre.
Je ne peux pas comprendre. Et moi, je donne mes points, enfin mon point, puisque je n'en ai qu'un aujourd'hui. C'est vraiment très serré, mais c'est Fred Goetti qui va l'emporter. Parce que je ne connaissais pas Peter Sellers, chanteur. Ces parodies musicales m'ont plu. Je vais les télécharger. On les trouve, est-ce que pour nos auditeurs, on les trouve sur Deezer, sur Spotify ou il faut vous appeler directement?
Je vous les copierai personnellement.
Voilà.
Ah oui.
Oh là là.
Ça fait plaisir.
Et moi, je vous donnerai le numéro de téléphone de Mathieu Noël, le portable. Comme ça, vous les redonnerez.
C'est ça,
ensuite.
Mais vous n'avez pas le bon, je ne vous ai jamais donné.
D'accord.
Le vrai. Vous le savez ici, c'est à l'invité que revient la lourde responsabilité de trancher. Bertrand Huskla, qui, selon vous, mérite d'être sacré chroniqueur du jour?
Eh bien, écoutez, moi, ça m'a rappelé des souvenirs. Je me souviens que quand mon grand frère a quitté ma maison, ma mère a énormément pleuré et c'est marqué en moi. Après, quand c'est moi qui a quitté la maison, c'est elle qui a appelé le Uber Van. Et rien pour ça, je vais nommer Jean-Philippe Ballas.
Et c'est donc Jean-Philippe Ballas qui remporte l'équipe est sauvage. On remercie notre invité, l'excellent Bertrand Huskla, à découvrir dans Brut sur YouTube et dans Il revient quand Bertrand sur le site d'Arte. Merci beaucoup Bertrand.
Merci pour votre accueil, c'était super.
Une découverte, j'espère, pour nos auditeurs aussi. Merci également à mes équipiers du jour, Eva Rock, Anne Le Gall, Jean-Philippe Ballas, Fred Goetti, Jérôme Lacroix, Henri Delaguerie et Olivier Pouls. L'équipe est sauvage revient demain 16h.